Cette émission vous est présentée par
Decathlon.
Top 10 des meilleurs lieutenants actuels.
Bim, c'est lundi. Hop là.
Monday.
Lundi dernier, on a fait une petite pause. Tranquille.
Oui.
Post All-Star Game. Pas de match.
Et là, on reprend les choses.
Petit top 10 bien intéressant.
Mm-hmm.
Top 10 actuel.
Actuel, après avoir fait quelques virages all-time, j'ai vu que nous avions bien débattu hein, sur nos amis pivots. Hein, il est où le joker?
Tranquille, c'était assez linéaire, je trouve. Non, je rigole. Déjà, de toute façon, on a mis,
il y a eu beaucoup de
on a mis 1h45 à se départager, nous, déjà.
Oui. Donc 40 sur la place 6.
Ouais, c'est clair.
Ah bon? Comment ça?
Bon, allez, 19-8-7.
Et puis 6-5.
Oh, bah, ouais, bah, le début du voilà. Top 10, de toute façon, il dure 30 minutes pour faire 4 places, 5 oui. places. Puis après, c'est 30 minutes pour faire une place.
Oui. C'est très rare, mais ça fait plaisir. C'est comme ça. Peut-être que ce sera aussi comme ça aujourd'hui. Merci évidemment aux copains et copines de la commu. Vous le savez que ce setup est extraordinaire, qu'on est tout le temps avec vous. Et parfois, hein, une fois tous les siècles, il y a une petite couillasse. Voilà, vous avez été nombreux à nous envoyer des messages. Je comprends pas. Il y a 6 minutes qui ont un truc. Voilà, ça arrive.
Oui.
On croise les doigts. Là, normalement, la week-end, elle s'est bien reposée. On lui a donné du break. Donc, normalement, là, elle devrait être nickel.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis, bah.
Et tout, ça arrive.
C'est tout, parce qu'on est des sentimentaux, nous on s'attache à notre matériel.
C'est ça.
Et du coup, on a du mal à en changer. Mais c'est vrai que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que la carte son dégage.
Exactement. Mais la plante, la carte son voilà. En ce moment,
c'est dur.
Il y a du changement. En espérant que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé, c'est le meilleur jour de la semaine, comme d'hab. Avant qu'on démarre, vous pouvez balancer vos suggestions de top 10. Je le sais, vous le faites toutes les semaines et cœur sur vous parce que j'en ai plein là. J'arrête pas de jongler avec des suggestions de sujets. D'ailleurs, petite question, Alex, parce que j'ai vu la suggestion dans un des commentaires. Alors, je n'ai pas le nom de ce héros de notre génération. On a fait les meilleurs handles. Il y en a un qui a suggéré le top 10 des meilleurs casseurs de chevilles. Mais c'est un peu similaire, non?
Ah, disons qu'il y a des mecs en doublon.
Ouais.
Pas forcément tous, mais certains en doublon. Bon, on l'a pas déjà fait, ça?
On a fait les
crossovers.
Handle,
on a fait les crossovers. On l'a fait. Tu sais, on était en bataille entre Tim Hardaway, le papa, et Allen Iverson.
Le numéro 1.
Et du Jason Williams, et du Kyrie.
C'est vrai.
Et du.
Donc allez consulter.
Je sais pas qui on avait, mais en termes de. Mais c'était crossover.
Ouais. N'hésitez pas à aller consulter évidemment l'ensemble de la chaîne parce que parfois, si vous faites des suggestions de sujets, ils ont déjà été faits. D'autres sont updatés. Et là, on parle des lieutenants. Alors, comme d'hab, avant de parler de nos potos de D4 et de bouffe et de tablettes et de mentions honorables, Alex, présentons le sujet. Parce que là, t'es arrivé au studio, je t'ai tout de suite posé la question. Et c'est quoi un lieutenant?
Donc, c'est un joueur qui n'est pas le franchise player. En tout
déjà.
Cas, pas celui que nous, on met en franchise player. C'est un joueur qui est fort derrière son franchise player, qui est capable de suppléer à son franchise player par moment, par séquence, voire sur des périodes de match s'il y a une blessure ou quoi. Si c'était un classement all-time... Je sais pas à quelle position tu mets genre un Scottie Pippen.
C'est la référence.
Mais c'est la ref. Il y a pas que lui, mais lui c'est une sacrée ref.
C'est la ref.
Si c'était, et je le recommanderais vivement à notre ami Adam Silver, un trophée NBA, ce serait le Scottie Pippen Award. Ou le Scottie
oui.
Pippen Award, ça a de la gueule. Mais tu vois comme on donne des noms à tous les trophées là. Voilà, le Bill Russell Trophy, le Michael Jordan Trophy, le Kobe Bryant Trophy, c'est le MVP du All-Star Game et tout. En all-time, Scottie Pippen, en termes de lieutenant...
C'est une bonne question ça pour les gens qui l'ont joué.
C'est chatoyant, ça envoie du lourd.
C'est pas mal.
Parce qu'après, en all-time, tu peux en avoir d'autres, hein, des gros lieutenants. Mais par exemple, tu vois, genre, c'était qui vraiment le lieutenant de Duncan? C'était Tony ou Manu? Plutôt Tony quand même.
C'est le trophée Tony Manu.
Le trophée voilà. Tony Manu. Mais c'est derrière Pippen, je trouve, en termes de symbolique.
Symbolique d'un lieutenant, on est d'accord, c'est un petit peu ça. Et il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce top parce qu'on va parler de joueurs dont parfois c'est le rôle depuis qu'ils sont arrivés en NBA. Hein, il y en a, on a vu tout de suite, pouf, c'est trop bien ton rôle, c'est celui de lieutenant, on sait déjà que tu es une option. Attention, il y a des joueurs dans ce classement qui potentiellement ont peut-être été par le passé des franchises et le temps avance, de l'eau coule sous les ponts et aujourd'hui ce
ils
sont des lieutenants.
Des excellents lieutenants, tout à fait.
Important ça à dire.
Pas exactement,
parce
très
que Dwayne Wade a été franchise player all time
et
avec
il a
LeBron.
Été un lieutenant de LeBron de
et il a été le bras droit officiel de LeBron à Miami pendant que LeBron était le franchise player
mais complètement d'accord.
De cette ville. Et Klay Thompson Trophy hein, d'ailleurs, lieutenant.
Klay Thompson Trophy, j'aime bien, même s'il y a Draymond aussi.
Dont on reparlera dans cette
vidéo,
peut-être.
Genre, juste, je suis pas sûr qu'on puisse dire le lieutenant de Steph, c'était forcément.
Non, non, c'est
clair.
Comme Tony et Manu. Hein,
tu vois, c'est plutôt ça. Genre, je trouve que Pippen, j'aime bien Horace Grant. Ensuite, non. J'ai bien aimé Rodman, mais le lieutenant, c'était Pippen.
Oui.
C'était pas une discussion.
C'est le Michael Parrish Trophy.
Ouais,
c'est,
voilà.
C'est le Worthy Trophy.
Non, mais voilà, il y a de ça. Et autre chose importante dans ce trophée, donc il y a pas mal de critères. Donc j'ai dit, être capable de suppléer offensivement. Si tu défends aussi, c'est bien. Si t'es capable d'avoir des missions défensives. En gros, t'es un joueur fort, t'es du niveau All-Star, t'as été All-Star ou tu... C'est comme on est dans un top 10 actuel. T'as été All-Star ou t'es au niveau de l'être, tu vois. Y a pas vraiment de poste pour être lieutenant. Non. Même si, quand tu regardes historiquement, et on verra nos top 10 actuels, il y a quand même une forte tendance sur du joueur polyvalent. Donc, du poste 2-3 qui sait un peu tout faire, qui attaque bien, qui défend, qui peut porter la balle, qui vient aider au rebond.
Oui.
C'est quand même pratique. Mais il y a des lieutenants meneurs, il y a des lieutenants pivots.
Il y a tout. Hein.
Tout est envisageable.
Ouais.
Ce qui compte, c'est d'être complémentaire avec ton franchise player.
C'est ça.
Donc, et par exemple, le franchise, parfois, c'est un pivot. Son lieutenant, parfois, c'est un meneur ou un arrière. Quoi.
Ben, c'est ça. Et puis, il va y avoir des débats parce que, par exemple, sachez-le, et moi, je vais vous poser, par exemple, tout de suite la question et on en reparlera dans... Je te propose, Alex, juste que je pose la question et que forcément, tu n'y réponds pas parce qu'on va peut-être en reparler dans quelques minutes dans la vidéo. Mais là, les gens, quand ils regardent les Spurs, le lieutenant de Wemby, c'est qui? Ha ha! C'est qui, c'est quoi? Il y a peut-être plusieurs joueurs, comment ça se passe? Donc, il va y avoir aussi des interrogations comme ça, c'est-à-dire qu'au fil de la vidéo aussi, on va pouvoir débattre de ce qu'est vraiment un lieutenant. Ce qui est sûr, oui, c'est comme tu le précises bien, il y a un côté, tu connais ta place, ce n'est pas celle du franchise player, mais on va avoir besoin de toi en toutes circonstances, on sait que tu dois répondre présent, que tu es bon pour répondre présent, que tu vas beaucoup plus faire briller le maillot, le nom à l'avant du maillot qu'à l'arrière, parce que tu n'es pas là. La figure représentative de notre franchise.
C'est vrai.
Mais par contre, on ne peut pas y arriver sans toi. T'es un élément tellement clé que si on veut avancer, c'est avec toi en pleine forme.
En pleine forme et plein de critères vont entrer en jeu. Régularité. Un bon lieutenant, c'est aussi un lieutenant qui est tout le temps là. C'est-à-dire qu'à moindre problème, y a le lieutenant qui nous a sauvés. Tu vois. C'est un mec qui illustre et défend aussi la culture de ton équipe, la mentalité et tout.
Bien
sûr. Tu sais, les matchs où on est là, genre, il a rien lâché. Et c'est lui qui remet l'équipe sur le droit chemin. Nanana. Ça peut être le franchise player qui fait ça.
Oui.
Parfois, c'est le lieutenant.
Tout à fait. C'est bien aussi les lieutenants qui sont clutch. Moi, j'aime beaucoup aussi. Genre, ouais. Attends, le franchise,
capable.
Il est bien doublé. On a compté sur notre option 2.
Ouais.
Et on sait qu'il peut faire le boulot à la place.
Ouais, non, mais complètement d'accord. Complètement d'accord. Comme ça a été le cas, par exemple, le premier sweep hit des Lakers, franchise player Shaquille O'Neal, lieutenant. Kobe, jeune Kobe quand même.
Alors,
et qui met des gros tirs oui. Contre Indiana et tout. Il est encore que lieutenant en 2000.
Oui.
Tu vois, genre, c'est pas lui faire offense de dire ça.
Non, mais
c'est
sûr.
Juste que du coup, c'est un très bon exemple. Après, il peut devenir franchise player dans le futur.
Bah, en fait, c'est ça que
ça
j'allais
marche,
dire.
Ça marche. Pardon, vas-y.
Non, mais en fait, c'est marrant que tu utilises cet exemple chaque Kobe parce qu'en fait, il y en a un aussi là que je mets tout de suite sur la table. C'est que parfois, il y a des 1A, 1B. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui on va pas se mentir, et Los Angeles Lakers c'est l'équipe de Luka Doncic, Alex. Mais LeBron n'est pas le lieutenant de Luka. LeBron n'est pas dans ce classement, excuse-moi.
Non.
Mais d'accord. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, Shaq et Kobe.
Sur le papier, ça se discuterait. Hein.
Shaq et Kobe, c'était évidemment Shaq était le franchise. Mais il y a eu des moments aussi où certains ont dit, genre, il y a peut-être des moments sur certaines séquences de jeu ou certaines séries de playoffs où c'était 1A, 1B.
Ouais, mais 1B, c'est lieutenant en fait. Enfin, pardon, hein. Juste. Enfin, c'est pas grave et c'est pas faire offense au type. C'est juste qu'il y a un moment donné, pour moi, c'est un meilleur exemple Luka LeBron dans le sens où LeBron était là avant Luka machin.
LeBron AD.
Et LeBron AD, lieutenant de LeBron. Très bon lieutenant AD. Est-ce qu'AD est un franchise player? Je pense que c'est un lieutenant de fou malade. Est-ce qu'on le met dans nos 10 là? Parce que sa saison actuellement, on sait pas et tout. Et là, on est dans un classement actuel. Hein. Si t'as joué 30 matchs sur les 18 derniers mois, c'est pas ouf. Tu vois donc.
Il y aura peut-être une petite exception.
Peut-être chez Bastien, on la connaît de toute façon. Voilà.
C'est impossible que vous la connaissiez.
Mais en tout cas, pour revenir à Shaq et Kobe, effectivement, faudrait y réfléchir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est clairement l'équipe de Shaq. Mmh. Et t'as clairement un lieutenant Kobe qui est capable d'assumer des missions offensives et des missions défensives d'ailleurs, de manière très forte et tout. Mais bon, ça reste l'équipe de quelqu'un d'autre. Quoi. C'est typique un lieutenant. Et Pippen, c'était ça avec Jordan.
C'était ça.
Les premières finales 91 des Bulls. dès le match 2, Phil Jackson, il fait
laisse, je gère.
Michael, viens là. Tiens, ce qu'on va faire, c'est que c'est Scotty, tu sais, il va prendre Magic, ce qui est un peu grand pour toi. C'est un peu relou pour toi, là. Il te back down tout le temps. Tu lui rends 15 kilos et tout. Il est encore en forme, en plus, l'ancien et tout ça, machin. Ah bah, dis donc, bim, 4 ans. Hein? Voilà, Scotty. Alors, il y en a qui disent, hein, parce que j'ai vu parfois l'argumentaire dire oui, mais sans Scotty Pippen, Jordan, je sais pas ce qu'il aurait comme bague. Oui, mais enfin, c'est surtout sans Jordan, Pippen, tu vois, genre. Mais du coup, ça montre bien quel lieutenant c'était. C'est ça que je veux dire.
C'est ça.
Et c'est des mecs à qui on file des responsabilités de malade.
Oui.
Et qui sont, ouais, je te dis souvent, level all-star et tout.
Oui.
Ça joue à rien parfois d'être franchise player ou lieutenant.
Absolument. Et à titre perso, vous le verrez certainement dans les critères aussi, j'accorde beaucoup d'importance à ceux qui acceptent ce rôle. Parce que dans toute grande équipe, il faut que chacun connaisse sa place. Tout le monde ne peut pas être le franchise player. Ceux qui réalisent et acceptent qu'ils sont lieutenants, c'est là que souvent les très très grandes équipes deviennent des équipes légendaires. Parce que c'est là que toute une équipe bien hiérarchisée peut aller jusqu'au titre.
Vu que c'est un classement actuel, comment t'as pondéré le succès des types ? Je m'explique, là moi dans mon top 10 et dans mes mentions, j'ai des gars que je considère comme des lieutenants. Il y en a certains qui ont déjà connu le succès, titre ou d'être All-Star ou tout ça, mais comme c'est des lieutenants, ils ont un franchise player à leur côté. Il y en a d'autres, ils n'ont pas encore connu ce genre d'honneur, mais on se dit, on a envie de se dire, bon ouais, en même temps c'est un putain de lieutenant, s'il était dans une vraie équipe avec une structure, un vrai franchise, genre on serait tous en train de dire, waouh, incroyable et tout. J'en ai quelques-uns des comme ça, donc comment tu pondères ça, parce que on sait qu'on est toujours biaisé par le succès des mecs.
Moi j'ai fonctionné ainsi, je me suis dit dans mon classement, si demain tous les joueurs sont alignés, j'ai les 450 joueurs de NBA qui sont là, et on me dit, Bastien, quel que soit ton franchise player, là, on va voir, mais il faut que tu choisisses ton lieutenant pour aller faire une saison et pour aller le plus loin possible. Quels sont les premiers lieutenants qui te viennent en tête ?
Voilà. Mais après, c'est pas forcément n'importe quel que soit le franchise player, parce que t'aimes bien que le lieutenant, il n'ait pas le même poste. C'est, ça, c'est juste ça, poste, la nuance.
C'est la nuance. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que j'aligne tous les joueurs et je me dis vraiment, ces joueurs-là, je sais tout de suite que je les sors de leur équipe actuelle. Je les sors de leur contexte actuel. Me parlez pas forcément de bilan, etc. Je sais que ce joueur-là, si demain je construis une équipe en septembre et que c'est le lieutenant de ma franchise,
je suis content.
Ça va cartonner.
Ouais, ça va le faire.
Il va cocher tellement de cases que je vais être nickel chrome.
Ok.
Voilà comment j'ai fonctionné.
J'aime bien. J'aime bien. Ça me va.
Eh bien, avant qu'on commence et qu'on rentre dans les débats, parce que je vois qu'il y a plein de franchises et de fans là qui vont commencer à balancer leurs mentions évidemment dans les commentaires. Et on aime bien les débats. Nous sommes avec peut-être un futur lieutenant de
sacré talent. Franchise,
monsieur Alexandre Sarr. C'est l'heure de la séquence Décathlon avec la paire de pompes, la Canaveral 900 mètres de Décathlon. Alex, j'en parle rapidos, mais pour toi, futur franchise player ?
Je sais pas, parce qu'il est encore très jeune et tout. Et, bah non, mais... lieutenant de fou,
ça peut être un super lieutenant.
Tout ouais, qui protège bien son cercle autour d'un franchise player qui soit genre un gros meneur ou un gros arrière. Un joueur
ou
extérieur.
Un ailier, hein.
Non, ailier, pas Anthony Davis, quoi, je veux dire.
Non, je dis par exemple, si je souhaite à Alex Sarr de devenir le Kevin Garnett de Paul Pierce, avec plaisir.
Voilà, très bien. Mais clairement un joueur extérieur, ball handler et tout machin. Ouais, carrément. Ah ouais, j'aime bien. Il a le profil. Et puis, ce qu'on lui souhaite, c'est d'établir un plancher au minimum à l'option 3. Et après, option 3 d'une équipe, je veux dire. Et après, on verra s'il peut aller plus haut. En tout cas, il porte ça sur les parquets.
Absolument.
Il le porte en bleu. Il le porte éventuellement en noir. Et il le porte également en blanc, comme Bastien vous le montre à l'écran. C'est le dernier coloris sorti sur cette chaussure signature Alexandre Sarr chez Decathlon.
Tout à fait.
89,99€, rapport qualité-prix assez intouchable. On va pas se mentir, c'est assez intouchable. C'est quand même cool que Decathlon mette à disposition du grand public à ce prix-là des pompes de niveau professionnel NBA.
Absolument.
C'est quand même cool.
On vous en parle tous les lundis. Si vous voulez juste bomber le torse et dire cette phrase, ouais, j'ai les pompes d'un joueur français, d'une marque française qui joue en NBA, this is it, en premier commentaire évidemment de cette vidéo, vous avez le lien épinglé. C'est la base Décathlon. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est évidemment avec Léon ce que nous avons fait ce magnifique jingle d'intro. Alex, avant qu'on rentre évidemment dans les mentions honorables, on va grailler. Faut être prêt, parce qu'un lieutenant, ça a une grosse cardio et il faut qu'il y ait de l'énergie dans le moteur. Qu'est-ce qu'on mange ?
Bonne question ça. On va se faire un petit saumon crème fraîche champignon tout simple efficace avec éventuellement un peu de riz.
Cru ou cuit?
Ah cuit.
Cuit.
Cuit, filet de saumon cuit. Puis à côté, tu te fais une petite sauce crème fraîche champignon et éventuellement un petit riz pour
un petit riz
si t'as besoin de féculents absolument, tu vois.
Pas de citron un peu
sur la crème fraîche champignon.
Non, sur le saumon.
Ouais, mais justement, si tu fais la crème fraîche champignon, je suis pas sûr de mettre du saumon. Je suis plutôt crème fraîche champignon genre aneth ou persil. Et citron, je suis pas sûr. Tiens, tu vois.
Est-ce que vous êtes team citron ou non?
Citron champignon.
Non, pas citron champignon, mais citron sur le saumon et à côté la sauce.
Citron sur le saumon.
On peut ouvrir des options.
Allez. Enfin voilà. Petit plat de saison évidemment.
Évidemment, on va partir sur vol au vent. Tiens, tous ceux qui aiment les vol au vent, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous mangez ce lundi? Dites-nous évidemment, on aime parler cuisine. Et on va cuisiner justement dans quelques instants. Alex, avant de démarrer avec les 10, est-ce que tu as une mention honorable? Peut-être un petit quelqu'un où tu t'es dit, ah
j'en
quand
ai
même.
Plusieurs.
Attention à pas me spoiler comme d'hab.
J'en ai plusieurs. J'ai eu pas mal d'hésitations. J'ai une belle mention honorable. Je me fais plaisir avec ça. C'est Dylan Brooks. Je l'ai pas rentré dans mes 10. Pour une bonne et simple raison, c'est que si je dois être objectif, et voilà, vous savez que c'est quand même
ça se passe à ma gauche.
Qualité première. Je kiffe sa saison à Phoenix, évidemment. Le type a changé la culture de l'équipe. Hein. Pas tout seul, hein, mais il y contribue très fort. Il y a le coach aussi. Hein. Attention, il y a le coach. Mais il y contribue très fort, il est très régulier, aussi bien dans ses qualités que dans ses défauts. Hein. Je veux dire, pour avoir vu quasiment tous les matchs de Phoenix cette saison, y a des matchs aussi où le côté trou noir de Dylan Brooks est là, est réel, au galop. Mais il a bien bouché les trous laissés par Booker, soit sur blessure, soit Booker qui a eu un excellent début de saison. Et depuis, il y a quand même un slump là qui commence à durer depuis plusieurs semaines. Ça fait plusieurs semaines, Booker, il shoot mal. Il a du mal à être en rythme et tout, machin. Enfin bref, voilà quoi. Donc, il se fait suppléer à ce moment-là et beaucoup par Dylan Brooks, pas que. Mais là où je vous parlais d'objectivité tout à l'heure, c'est quand même pour le voir jouer beaucoup et tout. Pour moi, ça reste plus une troisième option qu'un vrai lieutenant.
Ouais.
Pour moi, oui. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas ça exactement qui manque aux Suns pour dans le futur proche, pour passer un cap, si tu dois pas regarder du côté de joueurs, donc soit, du coup, vu que tu as déjà Brooks et Booker, soit c'est un pivot plus dominant encore offensivement que Mark Williams, soit Gillespie redevient ton sixième homme de luxe et tu prends un meneur plus gros scoreur ou quoi. Enfin, tu vois, genre en gros, un lieutenant que tu ajoutes et Brooks continue son rôle de energizer, électron libre offensif, mais sans être vraiment le lieutenant.
Je vois. Voilà. Hommage pour Dylan Brooks, c'est vrai qu'il est en train de devenir un des meilleurs lieutenants et puis sa production offensive là, c'est tellement énorme cette saison. 21 points de moyenne.
Et puis attends, la culture défensive qu'il a apportée, la mentalité, le côté feisty.
Les Suns ont gagné le trade. Hein.
Il contribue fort, non.
Je voulais voir si les gens suivaient.
Il contribue fort à la nouvelle culture qui est en train de s'installer à Phoenix, clairement.
Tout à fait. C'est un petit peu tôt, mais très hâte de le suivre. Surtout lorsqu'il ne se prend pas la tête avec Moussa Diabaté. Jaren Duren est en train de faire du forcing aussi dans cette belle conversation parce que il fallait, hein, notamment un lieutenant à côté de monsieur Kate Cunningham. Kate Cunningham est très clairement le franchise. Il est pas dans tes 10, Jaren Duren?
Non.
Ok. Mais. Et comment ça posait des bases?
Chiquette boy, on l'appelle maintenant.
Voilà, mais il commence à poser des belles bases, Jaren Duren, parce qu'en fait, Kate Cunningham est le clair franchise player des Pistons, et on cherche à savoir qui est son bras droit.
Non, mais si quelqu'un met Jaren Duren dans les lieutenants dans les 10, moi ça me choque pas du tout. Hein. Ah, ça me choque.
Ça me choque pas, mais il y a du monde devant quand même à aller chercher.
Si quelqu'un le met deux, oui, je vais être choqué. Mais si tu le mets dans tes 10 là en 8, 9, 10, je suis pas choqué. Ça se discute très fort.
Je me retourne et je dis un.
Ah ouais,
mais pas choqué, tu vois.
C'est dur, il est All-Star quand même.
Non, je suis pas dur, il est All-Star.
C'est un pivot All-Star.
Ouais, je suis pas dur, je dis juste, c'est un petit peu tôt pour passer certains garçons là dont on va parler qui sont quand même extrêmement forts. Et lui, il est en train de nous prouver en quelques mois qu'il peut être capable.
Dans une équipe qui gagne.
Est-ce que ça va se confirmer? Jaren Duren est une mention. Tiens, tu sais quoi? On va commencer en 10. Ah, moi je dis on va commencer en 10 parce que franchement il y a un moment où oui j'ai envie qu'on parle de ce top 10 des meilleurs lieutenants actuels Et je me permets en 10, vous le savez, c'est un petit
wild
peu la
card.
Place.
Ouais,
je la wildcard. Et wildcard dans le sens où je savais même pas où le classer. Est-ce que je devais le mettre, pas le mettre plus haut?
Draymond Green.
Bah tiens.
Eh bah, ah bah, c'est marrant, ah bah ça. Oh, monsieur.
Ah bah, alors,
ah bah
là.
Alors ça. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble.
C'est pour le mettre, lui.
Draymond.
Bah, il y a 2 ans, il était top 3.
Il y a 2 ans?
3 ans, 2 ans. Quand est-ce qu'ils sont titrés? 22? 2022. Ouais, 2-3 ans, il était encore top 3. Hein. C'est un putain de temps. Là, ça a baissé. Même ça reste encore costaud et sérieux. Ça a baissé.
Eh oui.
Ça a baissé. L'âge. De plus en plus de petites casseroles qui pénalisent un peu l'équipe,
oui.
Et tout. Donc ça a baissé, mais quand même, là le lieutenant quand même, tout à l'heure on en parlait, oh là. Dis donc, ouais. Quel lieutenant quand
c'est
même.
Exceptionnel.
C'est ton patron de défense, en attaque, et c'est aussi pour ça que peut-être il aura jamais été THE lieutenant, parce qu'il avait un autre gars qui défendait bien et qui attaquait beaucoup mieux que Klay Thompson, dans les grandes années. Et deux, bah Draymond, même s'il est capable, avec ses feintes de drive, ses easy, de mettre un petit 3 points de temps en temps, offensivement, ça reste un mec, t'as envie de le laisser shooter, de jouer les pourcentages, quoi. Mm-hmm. Tu vois, ça reste ce genre de mec. Après, il fluidifie l'attaque, transition, enfin, en tête de raquette, la vision
dribble
de jeu qu'il a, les dribble end-off et tout, donc... Il est là, il est encore là, du haut
il
de ses
35,
ouais, c'est ça. Il est encore dans le classement, ça se tasse, quoi.
Monsieur Draymond Green, tout à fait, qui, on l'espère, va retrouver un petit peu. Il y a eu des très bons matchs, hein, là, notamment juste avant le All-Star Break de Draymond, on l'a vu face aux Spurs. Moi, j'ai beaucoup aimé, on le voit encore être tellement solide offensivement, défensivement. Il n'y a pas à chier dans l'argument que je disais tout à l'heure, ou plutôt la méthode de critère où moi, je te dis très rapidement qu'un joueur, si demain, la saison démarre, j'ai envie de voir ce gars-là à côté de mon franchise player. C'est vrai que Draymond continue à être dans la conversation. Alors oui, ça peut rendre fou certains, mais si tu veux gagner, il est là. Ouais. Draymond Green. Attention, ça pousse derrière. Là, il y a des garçons qui vont dire oui, Draymond.
Il est que 10 là. Tu vois, moi déjà il est que 10.
Mais pareil, mais tiens, on est d'accord dès la place 10. Moi, je crois absolument pas qu'on va être d'accord sur les autres places.
Je sais pas.
Hors de question.
I don't know. Je vais mettre mon 9 tout de suite.
Allez, qu'est-ce que ça dit?
Hop, Stephen Castle.
Allez, Austin Reeves, que je voulais mettre dans la conversation. Parle-nous de Steph qui est podium de mon classement, comme tu peux l'imaginer. Hein.
Stephen Castle, déjà première question que je me suis posée, je me suis dit bon, c'est qui le lieutenant de Wemby? Et si vous avez envie de mettre D'Aaron Fox, sachez que je ne suis pas d'accord. Sachez également qu'on peut tolérer.
Que je vous emmerde.
On peut tolérer la tech.
Ouais.
On peut tolérer la tech, mais pour moi, c'est quand même Stephen Castle. Plusieurs paramètres à ça, des histoires de timeline aussi, et des histoires de pure complémentarité.
Oui.
C'est-à-dire que on est sur un lieutenant, Stephen Castle, qui attaque, limite son shoot va être son sujet, qui peut parfois le
Ce
gêner pour
vraiment
scorer.
Externe.
Ouais, son shoot vraiment externe parce qu'il est capable de driver avec son espèce de drive tout lent là où son deuxième pas, on sait jamais quand est-ce qu'il va le poser tout ça.
Ces petits push shots là dans la raquette là quand il met le bump, j'adore.
Il est capable et tout. Il joue sur plusieurs postes, il défend très très bien, il contribue au rebond, il peut créer pour les copains.
Mm-hmm.
Bastien disait que c'était un meneur quand il est arrivé en NBA. Bon.
Non, j'ai pas dit ça.
Enfin, qu'il pouvait jouer meneur, pardon.
Oui.
Moi, je trouve que c'est vraiment un 2-3. D'ailleurs, il est plutôt utilisé dans ce sens-là. Mais en même temps, c'est normal. Ils ont pris D'Aaron Fox à côté. Voilà. Donc
moi, j'ai juste dit que ce n'était pas un problème avec Stephen Castle, que c'est un pur basketteur et que tu peux le faire jouer à plusieurs postes.
Il peut créer, il est polyvalent, il remplit énormément de critères du meneur. Donc, vous allez me dire pourquoi tu ne le mets que 9. Bah, parce qu'à un moment donné, l'autre, il n'a encore rien vraiment prouvé au très haut niveau des playoffs en tant que lieutenant. Et ensuite, bah, j'attends de voir sur son shoot. Ça se trouve, ça va être un four en playoff, Stephen Castle. Je lui souhaite pas, hein. Mais ça se trouve, en playoff, va faire, waouh, ok, yes, oh la vache. Waouh, incroyable. T'as vu le game 6, là, quand il a fini les Nuggets?
Oui.
Tu vois, genre, voilà, quoi. Genre, hey, Christian Brown dans la poche. Tu vois, genre, je lui souhaite.
On lui
souhaite.
Mais alors, ce qui est marrant, justement, c'est que quand tu parles, par exemple, d'un Stephen Castle, il y a peut-être des fans de Détroit qui disent, les gars, Vous mettez pas Jaylen Duren qui est All-Star bras droit de Kate Cunningham. Enfin, tu vois,
c'est pour ça. Tout à l'heure, je t'ai dit.
Qu'est-ce qui fait qu'on le met, on va mettre Stephen Castle devant lui? Est-ce que c'est subjectif parce qu'on aime ce gars ou qu'il y a un... C'est quoi en fait l'argument?
Parce qu'il est moins dépendant pour moi et c'est important quand t'es un lieutenant. Et j'en ai un autre plus haut qui est... Les gens vont me dire faut le mettre beaucoup plus haut, mais il est un peu plus dépendant de ce qui se passe autour de lui à la Jalen Duren est un peu plus dépendant de ce qui se passe autour de lui. Stephen Castle, concrètement, quand Wemby était blessé et que c'était Luke Kornet le pivot, donc en termes de gravité, d'attraction et tout, c'est quand même pas tout à fait la même que Wemby. Stephen Castle, comme tu le disais, il peut jouer au meneur, tu lui donnes la balle, il peut créer pour les copains, il peut suppléer Fox, il peut scorer, il peut défendre, il peut être polyvalent sur plusieurs postes et tout. Donc pour moi, il y a ça aussi dans le lieutenant. C'est-à-dire que Jalen Duren, j'ai besoin de voir comment il va se comporter en playoff, et je ne dis pas que c'est pas un lieutenant, je le kiffe à mort. Juste me dis, si demain les Pistons ils recrutent un joueur fort externe pour compléter Cunningham à la Stephen Castle, le lieutenant ça sera peut-être ce joueur là et pas Jalen Duren, qui sera une troisième option incroyable. Donc c'est pour ça.
J'entends. J'en reparlerai un peu plus tard de Stephen Castle, comme tu peux l'imaginer quand même. J'allais pas mettre un joueur des Spurs en 9.
Toi, tu nous as mis quoi en 9 là ?
Austin Reaves !
Ah oui, c'est ça.
Donc, je voulais discuter avec vous parce que peut-être que pour certains, ils vont se dire Austin Reaves, comment ça ? Alors, disons tout de suite les choses. Pour moi, Austin Reaves n'est pas un franchise player.
Non.
Mais n'est pas non plus un role player de bas-fond. C'est un joueur qui est beaucoup trop fort techniquement dans le jeu et offensivement pour que je ne puisse pas le considérer comme autre chose qu'un lieutenant. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer que c'est un vrai bon lieutenant d'un franchise player. Si demain tu construis une franchise et tu veux que tu aies un lead playmaker qui puisse être associé à ton numéro 1 et ou capable de bien se débrouiller solo, ce fameux argument, on a vu Austin Reaves quand il est solo, ça a envoyé des sacrés mixtapes.
En tout cas, en attaque, il n'y a aucun problème.
Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus haut ?
C'est important quand même.
C'est parce qu'on est souvent que d'un côté du terrain. C'est que le pauvre ami Austin,
clairement, c'est
défensivement,
dur.
C'est un petit peu dur.
Oh, c'est chaud. Franchement, je préfère Luca à la limite. Non mais vraiment, je préfère Luca.
Mais donc du coup, Austin Reaves, je ne peux pas le mettre plus haut parce que je trouve que c'est un joueur beaucoup trop fort offensivement et que si demain il y a des franchises NBA qui me disent, écoute voilà, nous on aimerait construire un trident et une des trois branches de ce trident, c'est Austin Reaves pour aller chercher le titre, cette phrase existe pour moi. C'est juste qu'on sait que c'est pas la première branche, Austin. Je pense qu'il peut être entre la deuxième et la troisième. C'est donc un lieutenant de qualité.
Plutôt troisième branche pour moi.
Et peut-être plutôt troisième branche.
Pour moi, mais après.
Mais c'est vrai que par contre.
Ça dépend qui est ton troisième joueur en fait.
Oui.
Ça dépend du profil.
On se rend pas compte aussi que le mec, puisqu'on est dans un top 10 actuel, nous envoie, même s'il y a eu des absences, une saison à 26 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne. À 51% au tir et 36% à 3 points.
Ouais, et puis ce qui est très intéressant. Non, mais c'est super.
C'est énorme.
Non, mais c'est super. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est le 6 passes décisives qui est dû aussi au fait que dans les périodes où il a dû jouer sans Doncic,
oui,
il a créé. Il n'a pas juste scoré, genre je prends tous les ballons et je vais en mettre parce que j'ai du talent pour scorer. Il a créé pour les copains. Donc vraiment là-dessus, genre imaginez que sur des très longues séquences, et quand je dis séquences, ça peut être des séquences de plusieurs matchs, tu vois. Tu fasses tourner ton attaque autour d'Austin Reaves. Ah bah oui, j'y crois.
T'as un mec qui est sur le parquet avec LeBron et Luka en fin de match et il donne la balle à Austin Reaves. C'est déjà arrivé parce qu'il est très fort.
Ouais.
C'est un lieutenant quoi.
C'est un lieutenant, mais tu vois par exemple l'année dernière en playoff contre les Wolves, y a pas mal de petites choses qui m'ont frustré. Après c'est aussi parce qu'il est associé à un Luka Doncic. Et que là, du coup, si tu considères qu'Austin Reaves est un lieutenant, la complémentarité franchise player lieutenant, elle est pas ouf.
Et c'est ça en fait mon truc.
Et après, t'as LeBron au milieu de tout ça. Je dis pas que LeBron devient forcément une troisième option, pourquoi pas, mais qui du coup n'est pas non plus d'une complémentarité folle. C'est un porteur de balle aussi.
Absolument.
Donc ça joue pas en faveur d'Austin Reaves. C'est sûr qu'Austin Reaves, tu le mets à Philadelphie à la place de Tyrese Maxey. Je dis pas que Tyrese Maxey est un lieutenant. Mais tu le mets dans ce genre de configuration où il y a quand même un pivot très costaud, des ailiers, des machins, ça peut donner autre chose.
Oui.
Avec un Vidjej Comb à côté, tu vois. Genre, t'as vraiment un profil différent.
Oui.
Donc, tu le mets à la place de Jalen Brunson à New York, sur ce poste un peu de combo meneur. Tu le mets à côté. Moi, je préfère. Justement, j'aime pas trop à côté.
À côté, s'ils sont tous les deux, tu vas encore te faire ouvrir défensivement.
Je pense.
Donc c'est un problème.
Je pense.
J'aimerais bien, par exemple, tu vois, le voir.
Pourquoi
on va parler d'un garçon.
Il faut un Derrick White à côté de lui.
par exemple, tout à
fait. Pour moi, hein.
Moi, j'aimerais bien le voir. Alors, évidemment, comme le cas de beaucoup d'extérieurs, hein, mais j'adorerais le voir à Denver, par exemple, à la place d'un Jamal Murray.
Ça, je pense qu'il y a un paquet de mecs qui jouent guards,
ben ouais,
qui aimeraient bien jouer à Denver.
Ben ouais. Mais je trouve que cette phrase, elle semble bizarre pour certains, mais je pense que Austin Reeves, il cartonnerait dans le rôle d'un Jamal Murray.
Ouais, ça reste inconditionnel. C'est aussi pour ça qu'il est pas très haut dans ton top 10. Non, mais parce que ça.
Mais il a mis les mecs dans le rétro, tu vois, genre Tyler Herro, il est pas dans la conversation d'aujourd'hui.
Non, non, non.
Bah ouais, mais c'est 4.
Je pense pas qu'il soit lieutenant, moi, Tyler Herro.
Bah, il y a 3 ans, en tout cas, Tyler Herro était large au-dessus et il était.
On va parler de Miami.
Oui, bah oui, j'espère bien. Attends, t'es fou, quoi. Et ben avant ça, on va parler de la place numéro 8.
Ouais, on va parler de la place numéro 8. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. J'ai mis un joueur que j'aime beaucoup.
Moi, c'est un joueur que j'aime pas forcément trop, mais il faut que je le respecte. T'as mis qui ?
Trey Murphy.
Trey Murphy, ok. Moi, j'ai mis Monsieur Julius Randle.
Je l'ai pas dans mes 10.
Ok.
Je le préfère en troisième option qu'en vrai lieutenant, en fait. Parfois, il m'énerve trop. Mais j'avoue que ça se discute chez les Wolves, là. Il joue comme un lieutenant. Ça se discute. C'est intéressant comme cas.
En
il
fait,
était là avec deux autres gars, mais je savais pas. Je les ai pas cités dans mes mentions parce que juste, bah, j'ai bien fait. Parce que je savais pas trop ce que t'allais en faire.
Mais bah moi, sache que j'allais dire Trey Murphy dans mes mentions honorables pour la simple et bonne raison que pour le moment, j'adore le potentiel et ce qu'il est capable de faire. Mais Trey Murphy plus le mois d'avril, personne ne connaît.
Ouais. Mais alors.
Donc, alors que Randle notamment,
ouais,
on l'a vu récemment.
Il a fait des bons playoffs.
Il y a des choses où je sais sur quoi je peux me baser.
Il a fait des vrais playoffs. Hein.
Tout à fait. Donc en fait, Trey Murphy, tu vas nous en parler, mais je ne le classe pas encore parce que c'est une hypothèse de rejoindre les très très grands qui sont capables de faire des choses là où ça très très compte. Voilà.
Je suis d'accord.
Juste
et
ça.
J'en ai comme ça. J'en ai un autre.
Ah, oh.
Dans mon classement. Ou genre en gros, si tu commences à regarder ce qu'il a fait en playoff, ça coince, ça grince un peu. Mais je le mets quand même dans mon classement des lieutenants parce qu'à un moment donné, juste Trey Murphy. Bon, en plus en ce moment, il est bien en feu là. Il est en forme après dans une équipe qui gagne pas des
matchs. C'est ça le truc, c'est que si c'est le lieutenant d'une équipe à chier, ça donne quoi
Ouais, mais là vraiment, genre je comprends et c'est pour ça aussi que je l'ai entre guillemets que en 8. Mais sinon. Pardon, mais c'est lieutenant sur le papier, lieutenant parfait. Il défend pas si mal.
Bah sur le papier,
c'est très correct.
C'est pour ça qu'il a pas fait 10.
Poste 2, poste 3, vrai shoot, vraie capacité à scorer, même quand on lui file beaucoup de ballons. Et à côté de mecs qui scorent, parce qu'aujourd'hui ça gagne pas, mais il joue quand même à côté d'un Zion. Qui, allez, on va dire c'est Zion le franchise player. Bon, allez, on va quand même. Allez, oh quand même. C'est
lui. Plus Trey Murphy aujourd'hui.
Je sais pas. Mais
à New Orleans, oui.
Ouais, allez, à New Orleans, oui, mais. Peut-être d'ailleurs que Zion devrait se diriger vers un rôle de lieutenant, ça l'avenir nous le dira. Mais Trey Murphy, je crois, moi, après, voilà, il est que 8. Mais moi, je crois que Trey Murphy, tu le mets dans une vraie équipe avec un vrai franchise player, c'est un lieutenant et genre sérieux qui va défendre, marquer, participer au rebond, créer, il m'a surpris. Il m'a surpris, Handle création pour les autres. Il m'a surpris. D'ailleurs, ça se reflète un tout petit peu dans les stats. Là, il arrive gentiment à 4 passes DS.
Il file pas d'opportunité. Hein. Moi, j'ai l'impression que
il perd même pas de ballon. Donc c'est.
En fait, moi, j'adore le joueur. C'est juste que l'impression que j'ai, c'est que si demain tu mets dans un grand collectif, il me fait plus penser au Aaron Wiggins des Warriors que à plus
oh
plus.
Oh la vache. Ok, d'accord. Ok. Non, bah, je trouve ça dur. Ah, je trouve ça très dur.
Titulaire d'une équipe
titulaire Aaron Wiggins.
Non pardon, Andrew Wiggins, excuse-moi. Andrew Wiggins des Warriors. De toute façon,
ouais,
Andrew Wiggins,
okay.
T'as pas
dur aussi.
Bah, Andrew Wiggins des Warriors, champion NBA, titulaire, première mission défensive, capable de mettre sa vingtaine de points, qui se font dans le collectif, qui va pas passer ni devant Steph, Clay ou Draymond.
Non mais je te dis pas qu'il y a pas des similitudes entre les deux
a
profils.
All-Star.
Je te dis pas qu'il y a pas des similitudes entre les deux profils, mais clairement je mets Trey Murphy plus haut. Il a un mental plus agressif. Et tiens, Murphy, c'est un mec qui met des 45 points des fois. Hein.
Mais Wiggins au même âge, il mettait des 45 points.
Mmh.
Ah si, à Minnesota, il mettait le même scoring quand il était seul dans une équipe de merde.
Ouais.
Ah bah c'est factuel.
Ah
mais
bon
en fait, ah oui. À Minnesota, Wiggins quand il est tout seul, il a fait des scoring prowess de fou furieux. et il est monté à des assez hautes moyennes.
C'est marrant, après j'ai peut-être une mauvaise image de lui, mais j'ai l'image d'un mec
un peu plus
nonchalant, moins proactif.
Ça oui, bien sûr.
Je sais pas, je préfère ce que propose Trey Murphy, et peut-être que je le mets trop haut, mais alors là, s'il y a bien un truc qui m'a déçu là, cet été ou sur la trade deadline, c'est de pas avoir justement Trey Murphy partir pour aller avoir sa chance dans une équipe plus compétitive. Pour voir, parce que ça se trouve, t'as raison, en fait, c'est l'option 3-4 d'une équipe compétitive, parce que c'est ça, Wiggins. C'est option 3.
Il me fait penser à 3-4. Ça, ouais.
3-4.
Super équipe championne, c'est
genre,
un 3-4.
Grosse option défensive, mais en attaque, il y a quand même des mecs plus forts et tout. Ouais. Ok. Et encore qu'il a envoyé tellement du sale qu'il y a des moments en 2022 où il est aussi important que Klay Thompson en finale.
C'était un co-lieutenant, ouais.
Tu vois, voilà. Bon. Mais je pense que Trey Murphy, il a bien progressé au handle. J'aurais bien aimé. Après, l'opportunité s'est pas faite. Peut-être que les Pelicans demandaient trop et tout. Mais j'aurais bien aimé le voir partir dans une équipe qui joue un peu quelque chose.
C'est là au-dessus où je te rejoins. C'est qu'en fait, j'aimerais revoir ce top 10 dans 2 ans et me dire la perspective que tu as montrée, elle se valide. C'est-à-dire qu'on a vu Trey Murphy dans un autre cadre.
J'y crois.
Et voilà. Et on y croit.
Moi, j'y crois.
Ouais, je comprends.
Je trouve que, en fait, ça fait 2 saisons de suite où il joue plus ou moins comme un All-Star dans une équipe de merde. Enfin, ou de merde, ou en tout cas qui ne gagne pas beaucoup de matchs. Parce que sur le papier, il y a quand même du talent. Il y a des joueurs autour de lui, les Pélicans. Les Pélicans, il y a parfois un côté énigme, hein, quand même. Hein.
C'est même la plus grosse énigme.
T'es un, quand même, hein, tu vois, genre voilà.
Tout le monde est intouchable. On est la pire équipe de l'Ouest.
Et donc Julius Randle, alors je te laisse faire.
Bah déjà dites-nous ce que vous pensez par rapport à Trey Murphy, parce qu'on adore ce joueur et qu'est-ce que ça pourrait donner en lieutenant dans une grosse franchise. Julius Randle, on est un peu plus avancé sur le dossier, c'est-à-dire qu'il y a toute une forme d'hypothèse sur Trey Murphy que j'adore. Sur Julius Randle, on commence à voir un petit peu, c'est-à-dire, merci monsieur, on t'a vu à New York, on a vu ce que ça donnait en potentiel franchise player, c'est un joueur qui peut produire, mais dont les capacités sont limitées en tant que patron. C'est-à-dire qu'il a fait des formidables saisons statistiques, mais on a pris aussi le risque à Minnesota en disant, on va se séparer d'un Karl-Anthony Towns, peut-être un joueur qui va revenir dans le classement, je ne sais pas, on verra. Mais où du coup, Julius Randle, on lui a dit, tu connais Anthony Edwards ? Est-ce que ça te dirait d'être son bras droit ? C'est-à-dire, il y a un ensemble de bras droit et bras gauche, hein, en l'occurrence avec Julius Randle. Il y a plusieurs joueurs, hein, Jalen McDaniels, évidemment, Rudy Gobert, Dante DiVincenzo, mais le mec numéro 1 à qui tu vas filer la balle pour scorer derrière Anthony Edwards, c'est monsieur Julius Randle. On l'a vu en début de saison, il y a eu des absences de Julius Randle, tout le monde suit Julius et on y va. Est-ce qu'il me rend fou parfois ? Absolument. Et ça, j'en veux plus parfois limite à Chris Finch parce qu'il choisit un petit peu ses matchs et donc il va s'en battre les couilles défensivement.
Ouais.
Parfois, Julius me rend fou.
T'as raison, il y a le côté coaching. On se demande des fois comment il est coaché, est-ce qu'il y a vraiment des matchs où il fout rien.
Il fout rien. Et donc, c'est pas un franchise player.
Non, mais alors, ça, c'est sûr. Mais c'est sûr, t'as raison de parler du coach parce que ça joue beaucoup pour un lieutenant. C'est-à-dire que t'as Randle. Cher putain, physiquement, Randle,
physiquement, c'est incroyable.
Il peut défendre.
Et en fait, l'année dernière.
Il défend pas, parfois, il fout rien.
Et des fois, il fout rien. Et l'année dernière, tu t'en souviens comment on était émerveillé pendant les playoffs, on était en mode ok, donc il est sur LeBron au premier tour, c'est sa match-up à lui, il la gère magnifiquement en alternant un peu le scoring, en lisant très bien le jeu, on peut shooter à 3 points, on peut driver et créer, on peut aller chercher des lancers.
Si Anthony Edwards n'est pas là,
c'est exceptionnel.
Aux Wolves en playoffs l'année dernière, c'est magnifique, j'adore.
Et même derrière avec les Warriors, Julius Randle, en fait, c'est aussi les appréciations, tu vois,
j'aurais pas dû le laisser en mention.
Mais même, je pense qu'il y a des fans des Wolves qui vont dire ah,
bah moi c'est le côté défensif, hein, qui m'a fait le laisser en mention, hein, soit clair, hein. C'est le côté genre
il pourrait être podium mais Julius
tu
refuse,
te fait ouvrir de fou quoi. Et puis il y a le côté mentalité, c'est-à-dire qu'il a bien joué et tout, mais je sais pas, j'aime bien les lieutenants qui genre comme j'ai fait un peu hommage en mention à Dylan Brooks, mais c'est pas du tout la même catégorie, hein, vraiment. Mais je veux dire j'aime bien les lieutenants. T'es lieutenant, quoi. T'es pas un role player talentueux. T'es un lieutenant. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'équipe. Limite, c'est toi qui écoutes plus que le franchise player. Enfin, oui. Tu vois. Genre, et donc, t'as ce truc de emmener les gens. Et
ouais,
là, Randle, putain.
C'est chaud. On n'a pas sorti les stats de Trey Murphy, mais qui sont magnifiques cette saison. Il y a 22 points.
Je peux te dire ça tout de suite. 22 points, 6 rebonds, 4 passes, perd moins de 2 balles par match, c'est très important. Alors,
48,
et 48%, 38%, 89% au lancer. Hein. L'autre. Non, franchement, Trey Murphy, il envoie quelque chose, là, j'adore.
Julius est en 22-7-5.
Super.
C'est très,
3
très
points,
fort.
Peut-être faire 3 points.
Non, il a, cette saison, c'est un peu cracra. Il est à 32%. C'était remonté un peu la précédente. Mais les choix sont là. On va passer peut-être en place numéro 7.
Allez.
Qu'est-ce qu'on a en place numéro 7, je regarde.
Ah oui, ça. oui, en numéro 7, j'ai un arch, pas trop, c'est
oh là
pareil,
là, ça, y est,
ça c'était pas facile. Les gens vont me dire oh non et tout, mais
Chet Holmgren.
Ah, je l'ai mis. Je l'ai mis en 7.
Et moi j'ai monsieur Stéphane Chateau dont tu as très très bien parlé. Donc voilà, Stéphane Castle qui est
ouais.
Voilà.
On est d'accord tous les deux sur Castle.
Ouais, t'en as très bien parlé.
Les fans de Fox, on vous attend dans les commentaires.
Ouais, juste toute petite aparté. Tu l'as très bien dit, il y a eu des moments où certes Wemby était pas là. Il y a aussi des moments où Wemby est là. C'est qui a calé un 40 points, 12 rebonds, 12 passes là l'autre jour là, en disant genre.
Il est capable.
Reposez-vous les gars. Je vais take over le match à la manière d'un franchise player.
C'est vrai.
Il peut jouer un soir à un niveau All-Star et après un peu rentrer dans le moule. Et puis à ce soir la mission c'est de mettre 12 points mais de faire transpirer chez Gilgeous Alexander. Ok, je veux bien. J'adore. À confirmer. Parle-nous de monsieur Chet Holmgren.
Alors, je l'ai mis dans mes lieutenants parce que quand même, je trouve, et moi le premier d'ailleurs, qu'on a tendance un peu trop. Peut-être à lui manquer de respect à cause de son style de jeu, de son poste et puis bah des coéquipiers qu'il a qui font que il a un rôle un petit peu plus discret. Mais là où par exemple en playoff, ça m'a un peu énervé certaines performances que j'ai trouvées trop timides de Chet Holmgren. Là où il y avait Shea et Jalen Williams devant lui dans la hiérarchie, on va dire. Sur le début de saison du Thunder cette année, donc comme on est dans un top 10 actuel, là où quand il gagne 24 matchs sur les 25 premiers de la saison, c'est ça je crois, il n'y a pas Jalen Williams. Le lieutenant, c'est Chet Holmgren. Et oui, il a moins le jeu de poser la balle au sol et de créer vraiment ou son propre tir ou pour les autres. Encore qu'il a progressé là-dedans, mais on lui demande moins, quoi. Il y a tellement de ball handler autour de lui, franchement, voilà.
C'est pas son rôle.
En revanche, c'est vrai qu'on se branle tout le temps sur Kayson Wallace, sa défense, Jalen Williams, Shea, machin et tout. Pardon, mais le candidat DPOY, pour moi, c'est Chet Holmgren. Le candidat DPOY à l'intérieur du Thunder. Ou alors Lugansdort aussi, dont on parle jamais. Mais je trouve que Chet Holmgren, entre ce qu'il propose en protection de cercle, limite léger défaut au rebond, il se fait un peu bousculer, un peu manger parfois. La capacité qu'il a à mettre un pourcentage de ses 3 points tout à fait honorable et à scorer en assez peu de tirs. C'est-à-dire que c'est quand même de la balle. Donc, je trouve que, oui, dans le contexte du Thunder, c'est une option numéro 3, mais en fait, il a un profil de lieutenant. Donc, je le fous dans mes 10 lieutenants. Tu vois, j'ai pas mal hésité avec Jalen Duren qui a un profil différent, plus athlétique, plus musculeux on va dire, moins shooter hein, clairement que Chet Holmgren, plus costaud au rebond et tout. Mais Chet Holmgren a montré dans une équipe qui va loin certaines faiblesses mais aussi certains gros points forts qui font qu'il est très souvent dans des matchs le deuxième meilleur joueur de cette équipe en fait. Et donc, bah, je l'ai mis. Chet Holmgren.
J'entends rien à rajouter, évidemment, là-dessus. Il n'est pas dans mon classement, mais on parlera peut-être d'autres joueurs.
Je l'ai mis en 7, c'est un peu le plafond, mais ouais. Je l'ai mis.
J'entends. On va passer en place numéro 6. Ah ouais, là, ça commence à transpirer.
Ouais, là, c'est... Ça
de toute façon, on va pas être d'accord, ça c'est sûr et certain. Allez. Ouais, du côté de Miami.
Ah bah tiens. Ouais.
Ah, j'ai cru. Alex, mais Norman Powell. Non, c'est le mec qui fait flipper les gens qui font la vaisselle.
Il y a les gens qui se sont coupés la main. Là.
Ouais. Ah, Bamadé Bayo, on est d'accord, en place numéro 6. Qui aurait pu être bien plus haut, hein, cette affaire. Hein.
Ah bon? Non. Pas pour moi.
Moi, il a été plus haut et après, il a glissé au fur et à mesure.
Moi, marrant, il a plutôt monté.
Ah ouais?
Il vient de plus bas, moi. Et puis après, je me suis dit quand
même. Tu penses que Bamadé Bayo et Chet Holmgren sont proches en termes de lieutenant?
Ouais,
okay.
Dans des profils très différents, ouais. Dans le sens
c'est
où...
Un écart.
Ouais, mais regarde, il y a des configs qu'on n'a pas vu à Miami parce que Tyler Herro était blessé au mauvais moment et tout. Mais bon, c'est Bam Adebayo en 2023, le lieutenant de Jimmy Butler.
Absolument.
Qui vont en finale NBA avec un collectif, avec des joueurs autour et tout. Bien sûr. Aujourd'hui, difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de franchise player à Miami. Ah, pas vraiment, franchement.
Bah non, c'est pour ça que ça stagne.
Ça stagne. Mais par contre, ce que fait Bam Adebayo, poser 18 points, prendre 10 rebonds, protéger le cercle, switcher, être le point d'ancrage encore d'une top 5 défense pour la je sais pas combienième année et tout, c'est du taf de lieutenant comme on en redemande, quoi. Et le vrai sujet de Miami, c'est est-ce que un jour, là, depuis que Butler est parti, ils vont être capables, d'ailleurs Butler a montré qu'il était un franchise player quand il était à Miami, mais c'est un mec qui vient du lieutenant, quoi, pour devenir franchise player, ouais. Butler. Mais est-ce que Miami est capable aujourd'hui de monter un trade sans mettre Adebayo dedans pour faire venir un franchise,
oui,
player dont Adebayo deviendra automatiquement le lieutenant?
Moi, j'ai vu les visuels Yanis et Adebayo et j'ai eu un gros problème à l'entrejambe. Voilà. Je les ai imaginés tous les deux. Là, je me suis dit, oh, on va retrouver Bam Adebayo en vrai lieutenant, c'est-à-dire.
J'adore pas l'alliage, mais pourquoi pas?
Tu sais qu'on serait capable de bien des choses avec Eric Spoelstra. Il est particulièrement doué,
oui,
au coaching, ce garçon.
Bien sûr.
Et Adebayo, c'est là où je comprends que des gens, par exemple, plaident dans le top 5 et au moins il a reculé, c'est que de fait, c'est un des joueurs avec lesquels, dès demain, tu peux l'allier avec énormément,
oui,
de franchise players,
oui,
et ça marche.
Bah déjà, tous les joueurs extérieurs. Hein.
Tous les joueurs extérieurs,
ah,
ça calibre.
Comme ça, au moins, c'est carré. Pour les intérieurs, on discute, mais t'es
et
un franchise player.
C'est un polyvalent, quand
ouais,
même.
Bien sûr, mais t'es un franchise player, tu joues poste 1, poste 2, tu peux avoir Bam Adebayo comme lieutenant. C'est vrai.
Bam. Et en fait, moi, ouais, au début, il était un peu plus haut, il a reculé parce que je me suis dit, bon, quand même, il y en a qui ont d'autres dossiers. Mais par contre, il est dans les 10. Hein. Si vous n'avez pas Bam, là, par contre, moi, j'ai un petit peu du mal. Oh, quand même.
Ah, mais je suis d'accord, je l'ai.
En fait, en plus, ça se voit, là, ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est le patron du Heat et c'est une équipe mid. C'est pas méchant contre lui, c'est juste qu'il a besoin d'être. C'est Scotty, Bam Adebayo.
Scotty.
Pippen.
Tu veux dire dans quoi? Dans la mentalité,
en termes de profil de dossier, c'est-à-dire que c'est un joueur qui peut absolument tout faire et qui peut jouer avec quoi, 400 des 450 joueurs NBA. Il,
oui,
fit avec n'importe quoi, avec n'importe qui. Si tu veux qu'il soit clutch, il peut l'être sur des systèmes. Si tu veux qu'il soit défensif, il peut switcher.
Je pense qu'il est plus plafonné en attaque que ne l'était Scottie Pippen quand même.
Oui, mais tu vois dans le.
Mais je vois ce que tu veux dire.
C'est-à-dire que jamais il pourrait faire une saison comme Pippen à 55 wins où il est All-Star, First Leading Offense et tout. On est d'accord. Puis c'est même pas le même poste et tout, mais Bam quoi, trop de love sur Bam.
Ouais.
On rentre dans le top 5 là ?
Ouais, on rentre dans le top 5.
Ah, je sens qu'on va pas être d'accord.
Bah ouais, ouais. C'est possible. Peut-être que tu t'es trompé.
Aïe, 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 aïe. Et Alex, ami Brandon Ingram et Jimmy, monsieur Jamal Murray.
Ok.
Il est dans tes 10, Jamal Murray ?
Ouais. Ouais. Oh bah ouais. Surtout avec la saison qu'il fait là.
Et alors Brandon Ingram, c'est quoi ?
C'est un lieutenant. Et aujourd'hui,
à Toronto, c'est le lieutenant ?
Ouais.
De qui ?
De Scottie Barnes. Ah oh bah ouais. Alors pour moi, ouais, vraiment. Ouais, ouais, je sais qu'il va scorer plus avec des... Il a un meilleur shoot au global, mais tout le reste, je préfère Scottie Barnes en fait.
Alors, je suis d'accord, la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'en vrai, le meilleur lieutenant dans ce lot, c'est pas Scottie Barnes ? Intrinsèquement.
Alors, est-ce que Scottie Barnes est plus un lieutenant,
moi,
ou un franchise player ?
C'est un énorme Adebayo, Scottie
j'ai
Barnes.
J'ai là. Ah, ben justement, moi, j'aurais besoin de voir là ces Raptors en playoff pour me faire une vraie idée.
Je pense pas que Scottie Barnes est un franchise player.
Et ben moi, je suis pas sûr encore de pouvoir répondre à ça. Okay. J'hésite encore. Il y a des matchs cette année des Raptors où j'étais là, genre. Bordel de merde,
okay,
c'est un franchise player en fait.
Ouais, ouais.
Tu vois ? Et donc, du coup. J'étais là genre merde.
Et après, le lendemain, t'as fait aider Chet Holmgren.
Tu sais, ce côté-là, tu fais, oh, y a pas foutu grand-chose, Scottie Barnes. Puis en fait, à la mi-temps, il a 14 points, 8 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, plus 19. Tu sais, des vals là. Ah, franchement, Scottie Barnes, j'ai besoin, là, comme les Raptors en plus fonctionnent bien, avec un coach là qui a trouvé des bons équilibres, des choses très intéressantes et tout. J'ai besoin de voir ces Raptors et autant pour voir Scotty Barnes que pour voir Brandon Ingram, que pour voir Emmanuel Quickly ou Darko Rajakovic ou quoi, mais j'ai besoin de les voir jouer les Knicks, les Cavs ou les Pistons ou des équipes comme ça en playoff pour me dire ok, qui est qui. Mais t'as raison, t'as peut-être raison, peut-être qu'on a deux lieutenants en fait. Mais aujourd'hui,
j'ai l'impression que c'est ça,
je mets pas Scotty Barnes dans mes lieutenants. Pour moi, c'est le franchise player des Raptors. Aujourd'hui.
Ah, c'est marrant.
Non, aujourd'hui, non. C'est le franchise player des Raptors. En plus, il est jeune, il a encore du potentiel. Hein.
En fait, oui, la phrase, c'est ça. C'est, Scotty Barnes est le franchise player des Raptors, mais je ne pense pas que Scotty Barnes est un franchise player.
Et oui, ou alors en tout
je
cas,
pense que ça
un
peut
franchise
être un
player
extraordinaire, Scotty Barnes.
Ou alors en tout cas. Tu ne penses pas aujourd'hui que ça soit un franchise player autour duquel on fait une équipe de titres.
Voilà.
Tu le préfères en lieutenant, façon Adebayo, façon Draymond, façon tous ces gars-là.
Façon
quoi.
Big Aaron Gordon.
Façon Stephen Castle.
Ouais,
Big Aaron Gordon. Ouais. Aaron Gordon, c'est pas un lieutenant.
C'est quoi?
Aaron Gordon? Bah non, c'est l'option 3.
C'est un des lieutenants. Mais
ah,
alors,
oui.
Vu qu'on a parlé de certains qui sont en option 2-3, Aaron Gordon, c'est.
Oui.
C'est un co-lieutenant de Jokic?
Non. C'est un joueur crucial, mais je le mets pas en lieutenant, perso. Pas, non, je le mets pas. Mais après, on peut pas mettre tout le monde. Quoi.
Non, mais on associe...
Pour moi, le lieutenant, c'est celui qui est sur ta tablette, là,
oui,
clairement.
Oui. On associe plus rapidement Murray à Jokic. J'ai juste que je comprends si des fans de Denver, ou juste des fans de basket, vont dire Aaron Gordon, c'est un lieutenant à Denver.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais, je vois ce qu'ils veulent dire, mais
suisse.
Dans ce cas-là, Christian Brown limite pas loin, tu vois, genre
c'est
non
pas
mais
la
j'ai
responsabilité là, tu fais exprès. Mais c'est juste pour en revenir aux arguments que tu disais aux critères en début de vidéo où tu peux compter sur le gars des deux côtés du terrain, il a des grosses responsabilités, il peut être clutch.
Voilà, Brandon Ingram.
Aaron Gordon aussi, voilà.
Ouais, Aaron Gordon, en attaque, je préfère quand même Brandon Ingram.
Ouais,
et en défense, je préfère Aaron Gordon. Mais, en attaque, le truc, c'est ça aussi. C'est que là, les Raptors, s'ils fonctionnent bien, bien sûr, Darko Rajakovic a envoyé quelque chose de vraiment très intéressant en termes de coaching et d'équilibre d'équipe. Et Scotty Barnes, bah d'ailleurs, c'est lui le All-Star. Hein, c'est Scotty Barnes, le All-Star des
oui.
Raptors. C'est-à-dire que les coachs, ils ont dit, ok... Eh, les Raptors sont top 6 en début de saison, on les foutait au tanking, ou pas loin, ou au play-in. C'est qui le All-Star là-dedans?
C'est
Scotty Barnes. Alors que.
Parle pas de true shooting percentage.
Alors que. Brandon Ingram envoie. Pardon, je vais regarder ses stats. Brandon Ingram, il envoie, donc dans une équipe qui est top 6 à l'Est, il envoie 22 points, quasiment 6 rebonds, 4 passes, 47% au tir, 36% de loin. Enfin, il envoie un truc très sérieux. Et ben, il y a un All-Star à côté de lui, c'est pas lui le All-Star. Donc ouais, Brandon Ingram, moi, aujourd'hui, top 5 de mes lieutenants. Parce que là, il est aux Raptors. Et on est en train de se demander, bon, ah, c'est vrai, est-ce que Scotty Barnes, c'est un vrai franchise player et tout machin. Mais pour le coup, mets-le-moi aux Spurs à côté de Wemby, Brandon Ingram. Eh, lieutenant. Eh, de malade en plus.
Oui.
J'aime bien Harrison Barnes. Je sais pas, justement. Je suis pas sûr. Je dis que ça discute.
Ah,
ça discute fort.
Ouais.
Mets-le-moi à la place de Mikal Bridges aux Knicks.
Ah, mais oui.
Ouais. Est-ce que les Knicks ont un lieutenant? On attend la place numéro 1 de Bastien.
Bah moi je vais vous choquer en milieu de vidéo, j'ai aucun joueur de Knicks dans mon top 10.
Mais non. C'est vrai. Merde. Ok, bah c'est bien, on va pouvoir discuter.
Si vous voulez en mettre, allez-y hein, mais...
Oh la vache. Non mais par exemple
I want to provoke.
Mais je sais pas, genre Brandon Ingram si tu me le mets au Thunder à la place du lieutenant de Shea, dont on va peut-être reparler à un moment donné dans ce classement. Eh, ça cause hein.
De quoi, pardon, Andy?
Brandon Ingram,
oui.
Tu me le mets au Thunder.
Bravo, vive le Pain Tournament.
Hein? Arrête! Mais non! Ah, oh, t'es vache!
Mais non,
il
mais évidemment,
est fort.
Évidemment, mais il est trop fort.
Il
en fait, c'est juste
fort.
Que Ingram, moi j'adore le joueur, le bucket getter et même l'ensemble du jeu qu'il a développé.
Oh putain, j'aime bien son dribble et j'aime bien ce qu'il fait, hein, vraiment.
Bah, bien sûr. Mais
c'est un lieutenant.
Mais c'est marrant, quand j'ai préparé ce top et que j'ai pensé à Toronto. Je me suis dit, ah, quelle merveilleuse occasion de parler de Scotty Barnes. Parce qu'en fait, je crois que si Scotty Barnes, un jour, il est champion NBA et je lui souhaite, c'est dans un rôle merveilleux de lieutenant 2 ou 3. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. J'y crois pas en franchise. Mais alors, en lieutenant 2 ou 3.
Ok, c'est marrant. Moi, j'y crois.
Ok.
Moi, j'y crois en franchise. Est-ce que tu vas au titre ou quoi? On verra, mais t'as plein de franchise players.
Hein,
non, mais t'as plein de franchise players en NBA qui auront jamais de titre. Il y en a. Hein.
Oui, oui.
C'est pas parce qu'ils ont pas le niveau, quoi. C'est des alignements de planète, l'entourage qu'on te met et tout. Enfin, il y a, tu vois, genre,
bien sûr.
Je sais pas, Damien Lillard au Blazers, c'était un franchise player. C'était pas un lieutenant.
Ah oui, tout à fait.
Bon, bah, je suis pas sûr qu'il aura un titre dans sa carrière, Damien Lillard. On verra.
Bah, il a eu la NBA Cup il y a un an et demi.
À moins qu'il aille aux Suns pour finir sa carrière l'année prochaine, tu vois, mais sinon.
Moi, j'ai mis Monsieur Jamal Murray.
Oui, c'est lui le lieutenant de Jokic, plus quand même Caron ouais. Gordon, nettement.
Alors, oui. Sur Jamal Murray.
Vas-y.
C'est un des premiers noms qui vient forcément à l'esprit parce que il y a ce côté les meilleurs duos. On a fait une vidéo récemment là, les meilleurs duos actuels, tu sais, de NBA, les duos inter-exter, je crois, on avait fait. Ou je crois que tu nous avais mis Jokic Murray en 1, je sais plus, enfin, un truc comme ça.
Ouais.
Murray est évidemment dans le classement. Murray n'a pas bougé de mon top 5. Là où parfois ça évolue, c'est que cette saison, si on le met plus haut parce que c'est un top 10 actuel, moi je l'entends parce qu'il fait sa meilleure saison en carrière. Et donc en ce sens, de par sa production et de ce qu'il a fait en l'absence notamment de Jokic et pour garder le groupe intact, c'est une définition de super lieutenant. Là où vraiment j'entretiens le débat, c'est que je trouve que de la même manière qu'en intro tu as dit « Tiens, tu vois, par rapport à un Duncan, qu'est-ce qui se passe avec un Tony, un Manu ?» Je trouve, personnellement, que la charge est en co-responsabilité avec Caron Gordon. C'est-à-dire que Jamal Murray a cette, avant tout, hein, cette responsabilité offensive de très haut niveau, en répondant présent, en ayant cet alignement avec Jokic, en étant dans la franchise depuis toujours, en élevant son niveau de jeu en play-off, donc beaucoup de choses qu'on attend de la part d'un lieutenant. Mais je trouve que parfois c'est aussi oublier ce que Caron Gordon représente dans l'écosystème Nuggets et donc de son importance. C'est-à-dire que je ne vais pas soudainement dire que Jamal Murray est un des top défenseurs de toute la NBA. Je vais pas commencer à dire que Jamal Murray est irremplaçable dans ce système-là à Denver. J'aimerais voir d'autres joueurs jouer avec Jokic. Hein. On a parlé là d'autres garçons qui pourraient évoluer dans ce système-là. Donc il est cinquième. S'il y a des gens qui le mettent plus haut, aucun problème. Il fait une magnifique saison, Jamal Murray. C'est un des tout meilleurs lieutenants de la planète. Ouais. Je te laisserai en parler dans,
ouais, ouais,
dans,
non, non, mais
dans 44 minutes.
J'entends l'argumentaire, c'est intéressant. J'y répondrai
je
tout
ne suis
à
pas
l'heure.
Je ne suis juste pas d'accord.
Voilà, c'est ça. J'y répondrai tout à l'heure.
En 4, j'ai mon espèce... Non, en 4... Non.
Karl Anthony Towns pour moi.
Ouais, je sais.
En 4.
Et là, j'ai mis le joueur dont on a parlé en débat avant avec Alex et je lance tout de suite ma carte, Joel Embiid.
Alors, je te propose qu'on en parle après, parce que je l'ai en 3.
Ah. Alors, à ce moment-là,
moi j'ai
je
mis
te
Joel
propose...
Embiid dans les lieutenants dans cette vidéo. Ouais.
Je te propose de parler de Karl Anthony Towns dans quelques secondes. Pour que tu le saches, j'ai jonglé avec Karl Anthony Towns et Julius Randle, et ça va faire plaisir aux fans des Knicks. J'ai trouvé que les Wolves ont remporté le transfert, donc j'ai préféré parler de Julius Randle. Voilà.
Je vois, je comprends.
C'est
après,
un joueur extraordinaire, mais vas-y, parle-en. 4.
Ouais, bah moi je trouve que son meilleur rôle c'est en lieutenant déjà. Je trouve que ça lui va bien. Et il avait réussi à accepter, j'aime bien comment il a accepté mentalement le fait d'être numéro 1 de draft, le fait d'être d'abord considéré comme un franchise player en début, potentiel en tout cas en début de carrière.
Oui.
Et petit à petit, et notamment avec l'avènement d'Anthony Edwards, d'accepter un rôle de lieutenant et d'aller loin jusque dans l'acceptation du rôle de lieutenant. Rappelez-vous le travail de Karl Anthony Towns en playoff 2024. C'est 2024 où ils vont en finale de conf, les 24 et 25, je sais même plus.
En défense sur Jokic.
Ouais, en défense sur Jokic, en premier rideau, avec qui permet du coup à Gobert de rester en safety et de faire des choses. Le spacing qu'il apporte offensivement, je pense que dire que offensivement, Karl Anthony Towns est un joueur que tu peux considérer comme un lieutenant, il peut même être parfois la première option offensive de ton équipe quand il est chaud. Karl Anthony Towns, il peut parce qu'il a du handle. En plus, il est capable. Il a un shoot très sérieux. Il provoque des fautes. Enfin, il sait faire beaucoup de choses, mine de rien, sur un terrain. Évidemment, il y a une vraie problématique défensive quand c'est ton pivot titulaire et qui joue énormément de minutes au poste 5. Problématique défensive que les Knicks n'arrivent pas trop à gérer, que les Wolves, finalement, avaient mieux géré. En le mettant poste 4 à côté de Rudy Gobert et du coup en lui demandant des missions très claires de premier rideau mais avec de la protection derrière toi et venir se battre au rebond. Ce qu'il sait faire avec Karl Anthony Towns, c'est un double-double ambulant. Hein. C'est un mec qui met sa vingtaine et qui prend 10 rebonds, hein, vraiment. Et que quand ça veut sourire avec des bons pourcentages. Je trouve que l'équilibre qui avait été trouvé par les Wolves à côté de Gobert, et qui est reproduit d'ailleurs avec Randle, mais je trouve de manière un petit peu... offensivement, je pense que les Wolves, en fait, on avait sous-estimé Randle, sa création et tout ce qu'il apporte. En revanche, et puis le problème c'est qu'on est faussé aussi parce qu'il y a Conley qui a décliné au même moment, donc t'as d'autres paramètres. En revanche, défensivement, je pense que vraiment Randle lâche complètement les trucs, alors que Towns, il y a principalement un truc tactique, c'est-à-dire que poste 5, tu le dis assez souvent Bastien, ça marche pas. À côté d'un poste 5, avec sa capacité au rebond, sa longueur, parce que c'est un 7-footer hein, Karl-Anthony Towns, et quand il arrive à se motiver, il est pas nonchalant comme Julius Randle, c'est plus qu'il fait des grosses erreurs. Julius Randle, là où il me gave, c'est que parfois, désolé, mais genre t'as l'impression vraiment qu'il s'en fout quoi. Towns, j'ai pas cette sensation. J'ai plus la sensation de ah, il est perdu, ah, c'est pas son poste, ah putain, mais là il est pas venu protéger, mais elle est où l'aide et tout. Et donc, moi je le garde dans mes gros lieutenants. C'est un mec qui joue au niveau All-Star très régulièrement depuis pas mal de saisons et qui est impeccable à côté d'un gros extérieur. Il lui apporte du spacing, le gros extérieur c'était Edwards, maintenant c'est Brunson, il lui apporte tout l'espace pour naviguer en tête de raquette, pas parce que bah oui, t'as Karl-Anthony Towns, tu vas pas le laisser tout seul. Donc un gros ball handler, des joueurs extérieurs et Karl-Anthony Towns, c'est une belle attaque, souvent. Donc, ouais, moi, il est dans le top 5 de mes lieutenants, mais il faut mettre un pivot à côté.
Eh voilà. Ben, j'entends. Et en fait, avec Kat, ce qui continue de me gaver, c'est que je pense que...
Tu l'as pas dans tes 10, hein ?
Non, parce que, okay. Encore une fois, j'ai hésité avec Julius Randle, il était dans cette fin de classement. Rien à dire sur ce que tu as dit, là, c'était très vrai. J'ajouterais juste des éléments, moi, qui m'ont un petit peu fait grincer des dents. Je trouve que... Je parle pas de en dehors du terrain, c'est-à-dire qu'en dehors du terrain, Kat a vécu des trucs extraordinaires qui font que mentalement, c'est un des mecs les plus forts par rapport à tout ce qu'il a vécu au niveau de sa famille et de la santé, etc. Mais un lieutenant, c'est aussi un mec qui accepte d'être mis dans différents rôles et où mentalement tu peux compter dessus. Et Karl-Anthony Towns, lorsqu'il a fallu un petit peu montrer sa frustration, lorsqu'il a fallu un petit peu chouiner, il est capable aussi. Et un lieutenant, une de ses grandes qualités, c'est aussi de fermer sa gueule et de rentrer dans ce rôle-là. Et donc, indéniable ce que tu dis sur offensivement et sa contribution statistique, mais je trouve que c'est plus le troisième meilleur joueur d'une équipe qui va très très loin que le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui va jusqu'au titre. Vraiment.
Donc tu crois pas aux Knicks cette année ?
Bah,
c'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe normalement,
ouais.
Non ?
Ouais.
À moins que tu me dises que le lieutenant c'est Anunoby ou Mikal, mais...
Non. Mais je pense que les Knicks sont à un move de ce genre-là, de se rendre. Je pense que les Knicks aussi réfléchissent et se rendent compte, et on verra peut-être pendant les playoffs que ce n'est pas avec cette hiérarchie-là qu'ils vont aller jusqu'au bout. Mais je souhaite avoir tort et que les Knicks remportent le titre.
Bouge pas, hein, je mets mon 3.
Oui, bien sûr. On va parler de Joel. Alors, Joel Embiid, évidemment, on en parlait au tout début de l'émission. Monsieur Joel Embiid, à la base, on va pas se mentir, c'est un franchise player. C'est,
bah, c'est
process,
un ex-MVP.
C'est un ex-MVP. Le mec est monumental, beaucoup trop fort. On peut en parler pendant des heures. Maintenant, la réalité, c'est que même lui l'a dit, The Franchise, le surnom, c'est Tyrese Maxey. Et à Philly, cette saison, c'est indéniable. C'est Tyrese de Trompa. Tu as parlé d'option 1. C'est par lui que tout passe. Et Embiid, il faut aussi le dire...
Il a bien accepté.
A vachement bien accepté ça, ouais. Très bon travail de son côté, bah, et
respect.
Du coaching staff,
respect.
Beaucoup de respect parce que ça demande quand même des coronesses, hein. Si vous voulez un contre-exemple, demandez à Allen Iverson.
Et
hein.
Du mental.
Oui, tout à fait, demandez à Iverson qui refusait de sortir du banc parce qu'il disait que c'était un ex-MVP et qu'il n'était pas sorti du banc.
Melo,
oui, oui, non, mais je dis à Iverson, tu peux en sortir 150.
Tu vois, Melo par exemple,
oui.
Bref.
Oui, Embiid est en train de nous montrer qu'il est capable de se fondre dans un nouveau rôle. C'est à la fois bénéfique pour son corps, c'est bénéfique pour son équipe et c'est bénéfique pour le développement d'autres joueurs. Et il est en train de nous faire un arc fabuleux là, de devenir un des meilleurs bras droits d'un jeune franchise player pour une équipe. J'espère que, comme tu l'as dit récemment, les Sixers vont créer la surprise en playoff.
Je pense qu'ils
parce
sont...
que franchement,
je pense qu'ils sont pas bons à prendre. Je
bah
préfère
non, ils vont être durs à sortir.
Je pense qu'ils vont être relou.
Mais on est d'accord, Embiid. Du coup, c'est plus devenu, c'est en train de devenir un magnifique lieutenant, quoi.
Ouais. Parce que bah bon, il bouge plus comme avant. Est-ce qu'il rebougera comme avant ? C'est pas sûr du tout. Donc défensivement, ça lui joue des tours. Il peut plus aider autant qu'avant. Il peut plus être aussi dissuasif parce que moins de latéralité et moins de verticalité, enfin d'explosivité verticale. Bon, Il n'en reste pas moins que on a 2m13, on a 120 kills ou quelque chose comme ça. Costaud, poste, des belles mains, peut shooter, mi-distance, 3 points, lâche la balle dès qu'il y a une prise à 2, participe fortement au rebond, même si c'est moins vénère qu'avant, il y a moins les gros double-double, il y en a encore, mais il y en a un peu moins, où il y a une période où, voilà, Joel Embiid sur un terrain, ah ben il a fait 32-16, encore, tu vois, voilà, là c'est un peu moins. Mais depuis ce début de saison, il tourne à 26 points par match, hein, avec des bons pourcentages, 49% au tir, bon 32 à 3 points, bon, mais 49% au tir d'une manière générale, 86% au lancer, il en provoque encore plus de 8, donc ça c'est vachement intéressant, presque 4 passes d'aise, enfin ça c'est vraiment intéressant également. Donc il est en train de se positionner comme l'un des tout bons lieutenants à c'est côté beau. D'un vrai franchise player, complémentarité maximale. Hein. Je vous le dis, en playoff, il va y avoir des phases de jeu où ça va claquer des dents dans le clutch, parce que s'il y a Embiid et Maxi qui sont chauds, empêcher Philly de marquer, bah, tu sais que ça va être bien ouais. chiant, ça. Parce que pick and roll, pick and pop, oui. je drive, je machin, je prends le 3 points, dribble end off, enfin, ils ont tout, là.
Oui, tout à fait. À un âge différent, David Robinson a fait ça. Ex-MVP.
Ouais, il était plus vieux. Hein,
à un âge différent, une époque différente, un contexte différent. Mais David Robinson, ex-MVP, Santonio, voit Duncan débarquer. Et avec la classe qu'on connaît à David Robinson, accepte de devenir tout de suite le formidable lieutenant de Duncan. Mm. On souhaite le même succès à nos amis de Philadelphie, à n'en pas douter. Mais c'est vrai que là, Embiid est en train aussi de suivre ça. C'est-à-dire, je réalise et je comprends, pour mon bien-être et celui de ma franchise et notre réussite globale, que ce n'est plus avec moi forcément en pilier numéro 1 où tout est sur mes épaules que ça va le faire. Ça demande une humilité qu'il faut respecter et applaudir du côté de Joel. C'est très fort.
Et en plus... c'est bien fait. C'est aussi grâce à lui tous les résultats intéressants des Sixers. En plus, bon, ils n'ont pas eu de peau parce qu'il y a la suspension de Paul George qui revenait bien. On verra s'il est revenu pour les playoffs et dans quel état et tout. Mais en tout cas, non, c'est intéressant ce qui se passe à Philly, en partie grâce à Joel.
Tout à fait. Alors, tu as mis ton numéro 3. Vas-y. Bon, moi, j'avoue, mon numéro 3, c'est un petit peu, c'est une sorte de je sais que c'est assez bizarre une wild card en numéro 3, mais je me permets.
Wild card en numéro 3.
Ben, parce qu'il a pas joué du tout de la saison et que c'est un top 10 actuel. Mais par rapport à mon critère numéro 1 de tu alignes tous les joueurs de NBA, qui tu prends parmi les premiers lieutenants? Kyrie Irving. Kyrie.
Mais ça, c'est pour le classement all-time. C'est pas pour le classement actuel.
Tu penses que c'est un des trois meilleurs lieutenants all-time?
Un des trois, je sais pas, mais en tout cas, dans mon top 10, il y sera sûrement.
Kyrie est blessé.
Ouais.
Kyrie ne joue pas. Et donc, à partir de là, on a fait des classements récents, ou même des Tatum, tu sais, qui n'avaient pas toujours joué, on les a mis plutôt en wildcard en place numéro 10.
Oui.
J'aurais dû mettre peut-être Kyrie en place numéro 10, ça je l'entends. En fait, je suis parti du principe la suivante, c'est que vraiment, si les gars sont présents et qu'il y a les 450 joueurs de NBA qui sont dispo, ce que Kyrie fait en tant que lieutenant depuis combien de temps maintenant? On le sait que Kyrie est un lieutenant.
Depuis combien de temps il l'a pas fait là? Surtout ça fait deux saisons en fait là.
Enfin là ça fait.
C'était en 2024 le gros run.
Alors.
Sur lequel on peut se baser.
Tout à fait. Sur l'ensemble récent, c'est indéniable, il y a des blessures donc compliqué avec Kyrie. Par contre, sur l'ensemble de ce que ce mec est capable de faire, on l'a vu être capable il y a une éternité d'être le bras droit d'une équipe. D'un franchise player légendaire pour être champion NBA.
Bien sûr.
Pas de doute.
Ah non, mais c'est pour ça que je te dis, dans les lieutenants all-time, il a un dossier.
Et donc, Kyrie, de base, est un des meilleurs lieutenants de tous les temps et sa retraite n'est pas encore actée, à moins que quelqu'un me sorte une breaking news. Bon, ensuite, on l'a vu avoir un autre rôle et on a vu tout de suite à Boston que ce n'était pas un franchise player. Non, Kyrie, désolé, ce n'est pas ton rôle. Ciao, bye. Merci, au revoir. On va tester d'être lieutenant avec monsieur Kevin Durant à Brooklyn pour des raisons différentes.
C'était
Covid, machin,
c'est pas
un truc.
De peau, mais c'était
c'est pas,
pas de peau, si mal
mais
parti.
C'était pas dégueulasse du tout, tout à fait. Et puis on arrive à Dallas et il y a ce pari qui est fait. Mec, on va te mettre à côté de Luka Doncic et on pense vraiment que ça peut le faire. Et moi, j'étais encore émerveillé jusqu'à il y a quelques jours là de revivre Kyrie Irving avec ses maps là. C'est-à-dire, tu veux un mec sur qui tu peux compter pour mettre des énormes shoots dans le Money Time, tu l'as. Tu veux un mec qui fasse souffler ton franchise player et qui dit l'attaque c'est moi et puis je vais faire briller tout le monde et scorer aussi, on va jusqu'à la gagne, il peut le faire. On a même, toi et moi, parlé lors de la série face au Thunder de son travail défensif et de ses capacités à se donner.
Non, mais bien sûr.
Alors après, en finale,
mais ça a deux ans.
Mais ça a deux ans. Et donc en fait, juste, je continue à dire là, puisque tu m'as posé la question, dans mes critères, demain, tous les joueurs sont disponibles, Kyrie fait partie des trois premiers choix que je fais.
Pas moi.
Ouais, j'entends.
Ah, clairement pas là. Tu vois, je l'ai pas mis dans mes 10.
Bah, de toute façon, là, je pense qu'on va être choqué sur la fin du classement parce qu'il reste que deux places et je pense qu'on n'aura pas les deux mêmes noms.
Donc, non,
là,
mais on en a un en commun déjà au moins.
Ouais, mais on
est-ce
a
que tu en as tous les deux en un?
J-Dub.
Moi, j'ai Jamal Murray en deux. Je vois même pas qui c'est ton. Hein. Je vois même pas qui c'est ton. Merde.
Ça va y voir. Jamal Murray, tu l'as mis en deux.
Ouais. Ouais. Tu as mis en combien, toi? 5?
5.
4? 5. Bon, il est là, quoi. Il est top 5. Mais ouais, ouais, ouais.
C'est
ah,
là,
ouais.
C'est...
Ouais, je l'ai mis en deux. Mmh. Je l'ai mis en deux parce que là, clairement, la saison qu'il est en train de faire, donc au classement actuel, donc il y a le passif de Jamal Murray, lieutenant assez naturel, on pense à lui, lieutenant Jokic, ils sont allés gagner une bague ensemble, il a fait un run de playoff 2023 de lieutenant, bien vénère, ou plus récemment, en 2020, quand il fume les Lakers, c'est 2024.
Premier tour.
Premier tour, là, où Jokic fait « Poussez-vous, poussez-vous », match 1, là. Il y a Jamal, vous inquiétez pas, il va mettre le jumper sur la tronche d'Anthony Davis.
Anthony Davis, voilà. Jamal a mis un shoot.
Jamal, il arrive, ah. Ouais, t'inquiète pas, oui, mon capitaine, tu vois, lieutenant. Ah. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est fort. Et puis, il y a une complicité développée avec l'un des meilleurs franchise players de la Ligue, pour le coup. Oui. Hein, si on devait classer les franchises, je pense que le Nico,
oui.
Il serait pas dixième. Hein. Enfin, non, après,
sûr.
Je peux me tromper, hein, mais je pense pas qu'il y en ait neuf à mettre devant.
Après, moi, je prends pas le niveau du franchise player pour classer mes lieutenants.
Pas du tout. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que à côté d'un franchise player top niveau, on a un lieutenant top niveau et du coup, comme par hasard, bah, on a des résultats top niveau. Ça veut pas dire que c'est mal, qu'il y a pas le coach qui y est pour quelque chose, ou Aaron Gordon, ou Christian Brown, ou à l'époque Bruce Brown, ou tu vois d'autres gars, évidemment. Mais quand même, le lieutenant, le mec qui est capable de porter l'attaque quand Jokic est blessé. Je trouve qu'il a bien progressé à la créa en plus. Quand il n'y a pas Jokic, on le voit maintenant. J'aime bien ce qu'il fait. Là, il est All-Star pour la première fois de sa carrière en ce moment. S'il y a bien un moment, s'il y a bien un moment où je vais le mettre haut dans un top 10 actuel de lieutenant, c'est là.
C'est aujourd'hui.
Alors, je ne le mets pas un. J'aurais pu. Franchement, j'aurais pu. Je l'ai mis en deux. Jamal Murray. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà.
Donc, j'ai mis John Williams en deux.
Ok. D'accord. Ok.
J'ai mis Monsieur J-Dub. Mmh. Puisque, bah oui, on est sur un classement actuel, alors en effet, c'est pas le problème à la mimine qu'on va mettre de côté, hein, Jalen Williams. À partir du moment où le poignet est pas top, c'est peut-être le plus gros facteur X de toute la NBA aujourd'hui.
En plus, son absence parle pour lui presque, j'ai envie de dire. Dans ouais. Le sens où s'il était là, ou en meilleure forme, enfin tu vois, genre, ça serait peut-être pas pour le Thunder, ça serait peut-être un autre délire.
Tout à fait. En fait, moi, à l'heure actuelle, on le sait, Shai Gilgeous-Alexander est le franchise player du Thunder, le MVP en titre, et j'entends tous les arguments que tu as balancés sur Chet Holmgren, mais pour moi, le lieutenant de Shai, c'est Jalen Williams. Et le troisième, c'est Chet. Et ça s'est vu sur les derniers playoffs. Le deuxième meilleur joueur du OKC, ni le premier ni le troisième, mais c'est Jalen Williams. Il faut être clutch, je peux l'être, c'est mon tour. Il faut être défensif, donnez-moi toutes les missions possibles et imaginables. Preuve étant, j'en ai parlé la dernière fois, quand tu interviews les joueurs du Thunder, il y en a certains qui disent que le meilleur défenseur de la franchise,
ouais, c'est
Jalen Williams.
Ouais, c'est clair.
Donc le mec qui te prend des matchups de fou, je l'ai déjà vu défendre sur Jokic, je l'ai déjà vu défendre sur Wemby, je l'ai vu faire plein de choses. Il y a quelques mois, on était en discussion avec les fans du Thunder, on se marrait à se dire, le joueur le plus clutch, c'est qui aussi? C'est Shai ou c'est Jalen Williams? J-Dub est trop fort. Alors, en ce moment, il y a ce poignet qui ne va pas, et donc c'est difficile, mais il y a quelques flashs là de retour, on va suivre un petit peu physiquement, mais purée, tu sais que quand il revient fort, pour moi, c'est le plus gros facteur X de toute la fin de saison NBA, vu qu'on est sur un top 10 actuel. C'est si le meilleur lieutenant, voilà, en l'occurrence le deuxième,
bah
le
oui.
deuxième meilleur lieutenant de la NBA fait son changement. Et oui, mais c'est toute une franchise, hein. Je veux dire, il y a le Thunder autour, tu vois, c'est énorme. Mais si J-Dub revient à un niveau décent, le Thunder, il fait le doublé. Parce que si certains le mettent en 1, moi je l'entends, tu vois, parce que le mec, il peut absolument tout faire. Et en plus, il a cette capacité à totalement comprendre quelle est sa place à OKC. C'est-à-dire que jamais tu vas le voir essayer de devenir un joueur qu'il n'est pas. c'est je suis derrière Shake Juice Alexander, je suis un peu en retrait, je n'ai pas le type de personnalité qui fait que je vais essayer de un A, un B, etc. Ah bah tu l'as en 1.
Ah bah oui.
Ok.
Bah dis, j'allais pas l'avoir, ne pas l'avoir dans mes 10 quand même.
Ah, je le comprends.
Bah, ça paraissait un peu compliqué quand même là.
Et du coup, je pense que je vais te choquer avec mon 1.
Mais oui, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et d'ailleurs, tout ce que tu dis m'a fait mettre Jalen Williams en 1 parce que je n'ai pas vu, mais tu vas m'envoyer la lumière d'ici peu
non,
de temps.
Non, alors je vais envoyer du caca dans quelques secondes.
Je n'ai pas vu qui mettre devant.
Oui.
Là, je n'ai pas vu. Il y avait de la concurrence, Murray, pourquoi pas Embiid, parce qu'Embiid, c'est un ex-MVP qui est devenu lieutenant. Donc, mm-hmm. Il y a moyen qu'en playoff, on soit là, qu'on se regarde, qu'on fasse « Putain, merde, t'as vu Joël ? T'as vu ce qu'il vient de faire à la raquette des Cavs ? Mm-hmm. » Hein, il y avait Jarrett Allen sur une épaule, Evan Mobley sur l'autre, et en fait, bah, il est en 35-12.
Ouais.
Ça, c'est possible.
Parle-nous de J-Dub que tu as mis en 1.
Bah, écoute, tout ce que tu as dit, là, c'est très bien dit. Je suis complètement d'accord avec ce sur quoi tu étais arrivé, c'est-à-dire que non seulement il a toutes les qualités technico-tactiques du lieutenant, mm-hmm. peut défendre plusieurs postes, des longs bras, une taille polyvalente, peut. Beaucoup, vraiment des très beaux progrès de ball handling, création pour les autres ou pour lui-même. Mm-hmm. Shoot, mi-distance, quelques go-to moves qui se sont développés, une campagne de play-off vraiment de très belle qualité l'année dernière, alors que c'était que sa troisième saison NBA. Parce qu'attention, mm-hmm. il y a ça aussi, l'autre.
Ah,
il a quel âge ? Il a 23 ? 24 ? Quel âge il a, Jalen Williams ? 24 ans. Bientôt 25, ça va. Hein. Et c'est. Ça, c'est sa quatrième saison NBA. Donc l'année dernière, c'est sa troisième seulement. Donc ça promet aussi. Sa blessure en début de saison, c'est dit, waouh, le Thunder incroyable. En fait, on voit bien que pour avoir un équilibre dans la longueur sans Jalen Williams, c'est très compliqué. En plus, là, il y a une blessure sur Shea et tout. Donc voilà, évidemment. Mais oui, pour moi, aujourd'hui, actuellement, c'est le meilleur lieutenant de la ligue. C'est le lieutenant qui peut te faire gagner. C'est le lieutenant qui peut, par épisode, vraiment te faire oublier ton franchise player. C'est le lieutenant qui peut mettre 40 pions quand ton franchise player y est pas. Il y a vraiment, il y a tout. Et qui peut effectivement défendre le meilleur extérieur adverse. Enfin, pour moi, il est la deuxième raison pour laquelle le Thunder est champion, en fait.
Mm-hmm.
Derrière Shea, en fait. Clairement. Voilà. T'as mis qui en 1, du coup ? Vas-y, excuse-moi, là. Juste, c'est qui ton 1 ? Vas-y.
Je pense que ça va en choquer certains.
Ah bon ? À ce moment-là ?
Mais je pense qu'on est surtout impacté par les résultats désastreux de sa franchise cette saison.
Merde, putain, c'est qui ?
Monsieur Pascal Siakam.
Ah ! Ah, je l'ai pas mis.
Et alors, je suis même quand même un petit peu chamboulé qu'il soit même pas dans tes 10.
Ouais, j'avoue.
Parce que de quoi on parle avec Pascal Siakam, en vrai ? Après toute la vidéo qu'on vient de faire.
Non, j'avoue.
Le mec,
il aurait
en plus
dû être
par
dans
rapport
mes 10. À... Par contre, un, t'y vas fort. Mais il aurait certainement dû être dans mes 10.
Quand je prends l'ensemble des joueurs NBA, on a fait tous les dossiers là. Donc, on a cherché, tu viens très bien de le dire avec la phrase. Attends, donc si au cas où, sur un run de playoff, mon franchise, Tyrese Haliburton, n'est pas là, je sais que je peux compter sur Siakam. Non seulement on l'a vu le faire avec les Pacers, mais on l'a vu le faire avec Toronto aussi.
Ouais, il n'était pas lieutenant, mais je vois ce que tu veux dire.
À Toronto ? D'une équipe baguée, c'est le lieutenant de Kawhi Leonard. C'est le deuxième meilleur scoreur.
Tu trouves vraiment. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est moins un lieutenant évident que ce qu'il est avec Haliburton au Pacers, je trouve.
J'entends, mais.
Quand même.
Quand tu es à Toronto,
ouais.
Le deuxième meilleur joueur individuellement derrière Kawhi Leonard, c'est Pascal Siakam. Des gens peuvent dire que le plus important, valuable, ça peut être Kyle Lowry, j'entends.
Ou Marc Gasol.
Gasol. Mais Siakam, il est énormissime. Il est. All-Star à Toronto.
Les MIP, c'est l'année du MIP ou pas ?
C'est l'année suivante, je pense.
Non.
Où il est à 23.
Non, l'année non.
Où il est.
C'est
il
l'année
est...
du MIP. Il est en 17-7.
Il est en 17-7 et il monte en température sur les playoffs.
Il est en 19-7. C'est bien.
Il est monté. Pascal Siakam, on l'a vu par le passé déjà dans une franchise. Arriver et être le deuxième meilleur joueur ou co-deux, troisième si vous voulez, mais certainement pas trois ou quatrième meilleur joueur d'une franchise qui est titrée. Donc Siakam Toronto, check. Tu me mets Kawhi Leonard. Donc un ailier et tu me mets moi en ailier fort, ça marche. On peut aller jusqu'au bout les frères. On bouge. Ah, on a vu les limites. On met en franchise player du côté de Toronto, la bulle, Tampa Bay, etc. Désolé, c'est un peu plafonné. Je peux faire de la grosse production statistique, level all-star à Toronto, mais même si vous mettez des mecs super à côté, on va pas pouvoir aller très loin les frères. Donc ça s'est arrêté, je crois, contre Philly au premier tour.
Après,
quand c'était la bataille. Et à sa décharge,
dur.
Il y a plein de décharges.
Ouais, hein,
quitte à parler de Siakam. Et après, tu vas à Indiana. C'est le move tenté par les Pacers pour dire, allez, on a notre meneur de jeu. Donc, autre registre. Hein. Donc, le mec, il peut être très fort avec un ailier. On va jusqu'au titre. Mmh. Et on peut être à 48 minutes de remporter un titre où mon franchise player, c'est un meneur. Donc, on est sur un mec qui est d'une polyvalence énorme. Expérience. En termes d'état d'esprit, Pascal Siakam, pardon, mais c'est le lieutenant absolu. C'est-à-dire que jamais il va gueuler, sauf pour motiver ses coéquipiers. Qui a des faits divers sur Pascal Siakam? Nobody. Le mec, il embody à lui seul l'ADN de sa franchise. C'est-à-dire qu'à Toronto, il était adoré. Et là, à Indiana, c'est pareil. Depuis qu'il est arrivé, les Pacers, bah, tout a changé. Mais personne ne dit que c'est le franchise player d'Indiana. Mais tout le monde oublie Pascal Siakam.
Oui, c'est vrai.
C'est que c'est un mec,
moi,
en fait.
Le premier, en fait.
Voilà. Alors que là, pareil, tu vois, les Pacers, ils ont des résultats nullissimes. Donc certains
vont
me dire.
C'est pour ça que j'ai oublié cette année.
Et moi, je comprends. Et aussi, certains vont me dire, bah oui, mais Bastien, il n'y a pas Haliburton. Si Siakam était, les Pacers, ils devraient être bons. Doucement, les Pacers, ils manquent tout le monde. Genre, là, trivia, êtes-vous capable de donner le 5 majeur des Pacers en ce moment? Moi, je vous applaudis très fort. Personne ne joue à Indiana, là. Il n'y a pas les Nembhard, il n'y a pas les Nesmith, il n'y a pas les Siakam. Ils ont
voilà,
perdu Miles Turner.
Ils étaient là contre New York l'autre jour, là.
Certains ont joué, mais tu vois, il y a quand même une grosse hécatombe à Indiana.
J'aurais dû le mettre.
S'il y en a qui trouvent que 1,
si
c'est abusé, moi j'entends.
Mis, je l'aurais pas mis 1, c'est sûr. Je l'aurais
mais
dit.
Siakam.
Je l'aurais mis vers 4-5.
Siakam, en fait, sur les derniers playoffs avec Indiana, si tu veux faire des grosses performances au scoring, tu peux compter sur lui. S'il fallait défendre de fou, il était là. En fait, on oublie tout le temps Siakam.
Je l'aurais mis vers 4-5. Je l'aurais pas mis 1 quand même.
À la fin de sa carrière, ben j'entends, c'est pour ça. Mais si à la fin de sa carrière, on se retourne et qu'on dit le mec, il a amélioré à chaque fois les franchises dans lesquelles il était et c'était à chaque fois le deuxième meilleur joueur, ben, c'est ce qu'on appelle un lieutenant parfait.
Pour toi, c'est un meilleur lieutenant que Jamal Murray?
Ouais.
D'accord.
Wow. Parce que je pense que des deux côtés du terrain, il est un peu meilleur. Jamal
est meilleur en défense. Oui.
Il est meilleur en défense. Mais ouais. Siakam, attention offensivement. Hein.
Ouais, enfin, quand même.
C'est les mecs sur qui. C'est...
Je sais pas si tu peux faire reposer ton attaque sur Pascal Siakam.
Jusqu'à quel niveau?
Un peu.
Parce que juste, si tu fais reposer ton attaque sur Pascal Siakam, c'est un premier tour de playoff. On l'a vu avec les Raptors en franchise player.
Ouais, voilà.
Tu mets Jamal Murray en franchise player offensif d'une franchise, elle fait pas le premier tour des playoffs. Hein. Ou Max.
Oh bah si, pourquoi?
Au maximum.
Ça dépend ce que tu lui mets comme joueur. S'il a Adebayo par exemple à côté, tu vois, genre de.
Ah, lui, t'as vu à Toronto
voilà.
Qu'il avait, Siakam.
Voilà.
Ah, c'était l'horreur.
C'est bien, j'en parlais tout à l'heure. Je dis voilà, faut pas le juger là-dessus parce que.
En fait, le truc, c'est que Murray, tu vois, je me demande ce qu'il donne dans une autre franchise.
Oui. Eh ben, Murray bénéficie. En fait, Murray, c'est vicieux.
Alors que Siakam, moi, je sais.
Murray, c'est vicieux parce qu'il bénéficie du fait de jouer autour de Jokic où on a tendance à se dire ah, il y a plein d'arrières qui arriveraient. Mais lui, il le fait d'une manière extrêmement sale. Est-ce que les ouais. autres, ils y arriveraient aussi bien?
C'est chaud.
C'est chaud.
En tout cas, voilà pour ce grand classement des lieutenants. Peut-être qu'il y a des gens qu'on a oubliés. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont nous dire attends, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir là dans la liste? J'essaie de voir un
peu. Darius Garland. Ok, il y en a qui vont préférer D'Aaron Fox à Castle.
Oui, ça je peux l'entendre.
On peut en discuter.
Alors oui, juste la section Boston, on en avait parlé ensemble. C'est compliqué parce que certains par le passé auraient peut-être pu dire John Brown, mais pardon, le mec,
l'exception
c'est l'exception
qui confirme ou qui met la règle à l'épreuve. Clairement, Jalen Brown nous montre cette année qu'il n'est pas un lieutenant. Et que il y a une sorte de co-leading depuis les postes d'ailier à Boston et Mazzulla va devoir composer avec quand Tatum va revenir.
Je peux te proposer quelques noms.
Préparez-vous pour les playoffs 2026.
Tout à fait. Alors, je te propose quelques noms. Oui. Je veux bien voir ta réaction. Tiens.
Vas-y.
Evan Mobley. D'accord.
Troisième option.
Franz Wagner ou Paolo Banchero?
Bah c'est des lieutenants les deux, mais je sais pas trop lequel. Est-ce que moi pendant longtemps je pensais que Paolo Banchero était de la trempe d'un franchise player plus que Wagner. Mm-hmm. Aujourd'hui j'avoue que limite les deux me déçoivent de ouf. Mm-hmm. Vraiment pas que Banchero, en fait je trouve qu'on en fait un peu trop sur le côté déceptif de Banchero et pas assez sur celui de Wagner. Mmh. Je pense qu'aussi j'aimerais bien les voir dans un contexte de coaching et d'entourage un peu différent. J'aimerais bien, donc non, c'est des lieutenants, donc faudrait les voir dans des contextes différents.
Alperen Sengun.
Alperen Sengun, je n'ai pas lâché le bateau, je pense que ça peut être un franchise player, je peux pas le mettre dans les lieutenants, j'y arrive pas encore, mais peut-être qu'il en sera un. Amen Thompson. C'est un lieutenant, lui, ou pas?
C'est un potentiel lieutenant. Portland, je sais pas trop qui définir, parce que certains vont dire Denny, mais à voir. C'est peut-être surtout Jrue Holiday qui a été énorme en lieutenant pendant les années, mais c'était plus le troisième ou quatrième.
Puis aujourd'hui.
Je dirais plus important. Non,
aujourd'hui, c'est compliqué de mettre Jrue en lieutenant, quand même.
Lauri Markkanen, on fait quoi? Parce que c'est pas un franchise, hein. Ça, c'est bon.
Non, c'est pas un franchise. Ça peut être un bon petit lieutenant. Hein? Ouais, non, carrément.
Lauri, il peut.
Ouais, ouais.
Dites-nous si on a oublié certains noms. Hein. Voilà, après, si vous voulez parler de Brandon
après,
Miller, de Jay Anderson.
Ça peut être un bon petit lieutenant aussi. Non?
Ah, bah si, si. Allons-y. Bah, ou Jaren Jackson Jr. qui l'a été pendant longtemps.
Ouais,
un très bon lieutenant.
Jaren Jackson Jr.
On va montrer le gros tableau.
Allez.
Le gros tableau avec donc le top 10 des lieutenants actuels. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous pas d'accord? Qui en a oublié ou qui vous auriez mieux classé? C'est à vous évidemment de nous répondre. Et de nous dire en commentaire quels sont les top 10 que vous souhaitez qu'on va faire sur cette fin de saison palpitante de la saison régulière 2026. Après, il y aura les playoffs, ça va être complètement fou.
Un petit programme bien cool, ouais.
Mmh. Ouais, restez connectés, il y aura peut-être des annonces.
Ouais, il y a des annonces même. Enfin, voilà. S'il n'y a pas des annonces,
enfin, bref,
c'est bizarre.
Vous allez voir. Mmh. On fait des gros bisous, excellente semaine à toutes et à tous, et à lundi prochain.
Ciao tout le monde.
Ciao. Ciao.